Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que...
On va se calmer.
Hein. Ah non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo?
La famille, c'est Salo.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de Scott.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial drôle de dame. La seule émission à la radio qui parle de foot étranger pendant 2 heures. Pour l'Italie ce soir, Johan Crochet. Bonsoir, Johan.
Salut, Nico. Bonsoir à toutes.
Pour l'Espagne, Fred Armel. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Pour l'Angleterre, Julien Laurence est avec nous. Bonsoir, Julien.
Salut, Nico.
Et pour l'Allemagne, une drôle dame qui fête son Drei und 50 anniversaire ce soir. Bonsoir et bon anniversaire, Paulo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nico, merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde.
Ah, t'es plus jeune que moi.
Bah, oui. Un peu, ouais.
Ouais, moi, j'ai 54, pas 53.
Ouais, j'aurais dit ça, un an de déclaration. Ça me semble assez...
Bah, voilà, ça ne rajeunit pas.
Ouais. Dans l'ordre, t'as pas eu le temps pour une vraie introduction, non, aujourd'hui?
Écoute, c'est semaine de Coupe d'Europe, et pour être honnête,
ah, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de.
Mais j'ai trouvé très mauvais, tu vois, c'est même pas remarqué, tu vois. Donc, les semaines précédentes, donc j'ai décidé de faire une pause, et pour, eh bien, faire respirer mon inspiration médiocre. On verra la prochaine.
Il est traumatisé, Nico, par les résultats des coupes anglais, des clubs anglais en Coupe d'Europe.
Non, moi j'aime bien les clubs anglais en Coupe. Moi je regarde la Ligue des Champions, à l'inverse de toi, Johan. Hein. Vous avez regardé d'ailleurs Real Madrid,
moi j'ai regardé City, ou pas Real City. Et...
Ah, t'as regardé quand même,
c'était pas mal quand même.
Ah, je crois que t'aimais pas ce football-là.
Non, mais il y avait Volendam qui jouait en même temps, il savait pas quoi faire.
T'es Volendam, t'as raison.
Avec un nouveau directeur sportif, si je me trompe pas, mon cher Johan.
Ah, Volendam.
Ouais.
Ah, tout a changé, ouais.
Non, pas trop loin, les amis, quand même. Bon, voilà, on va les laisser
bientôt les mutants au football vont arriver. Ça va commencer en première ligue, après ça va être aux Pays-Bas, vous allez voir.
Mais voyez, pas d'intro permet de faire ce genre de digression, c'est magnifique, et de ne pas perdre de temps et d'accueillir Gilbert dès maintenant, qui sera là à 22h pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars.
Ça va
et toi, vous voulez le programme?
Bah oui, c'est pour la télé là, hein. C'est pour
ça que... Alors Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter extraordinaire.
Pardon, qu'est-ce qu'il a fait?
Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter extraordinaire. J'ai appris que le Bayern Munich était un club d'extrême gauche élitiste. Je trouve ça assez extraordinaire.
Ah bon, j'ai pas vu, ça m'a échappé, moi.
Donc voilà, je vais revoir mes livres historiques, mais bon.
Oui, c'est un tweetos qui m'a envoyé une carte avec les tendances politiques des différents clubs européens.
Ah, intéressant.
Alors, apparemment,
approximatif.
Vu ce que nous dit Polo, tout n'est pas juste.
Ah, oui.
Ah bon? Et alors, je serais très étonné de savoir ce qu'il a mis sur le Real, parce que là, bien malin, peut dire quelle est la couleur politique
tendance
du Real Madrid.
De quoi, des supporters? Voilà, c'est ouais, ça. Qu'est-ce qui définit une tendance? C'est l'histoire du club ou c'est les supporters? Bon, on va regarder. Pour vous dire également qu'à 21h45, vous nous appelez, hein, le 32-16, les auditeurs face au drôle de dame, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. N'hésitez pas à faire le 32-16. On est là. Et puis, vous le savez également, à 22h, Gilbert. Mais d'abord, vos 3 points. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dame? 15 secondes chacune. C'est parti, Johan.
On va revenir sur le match entre l'Udinese et la Roma, mais pas trop sur le sportif, mais plutôt sur le malaise d'Evan Ndika, et tout ce qui a été l'après-match, hein, de cette rencontre à Udine. On va revenir aussi sur le match très 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 compliqué du Milan sur la pelouse de Sassuolo, avec des trous d'air franchement hallucinants, défensivement notamment, et en termes de concentration et d'organisation de cette équipe-là, qui un peu inquiétant pour le sprint final. Un petit mot sur l'Atalanta et son jeu très européen. Et puis, dans la minute, évidemment, on parlera des gardiens.
Bah, bien entendu, on va parler du Barça, hein, avec le 11 des Catalans qui se dessinent pour jouer contre le Paris Saint-Germain mercredi. On va parler du Real, qui pense qu'il peut faire un coup à City. Et puis, Griezmann aussi extraordinaire. Et puis, bien entendu, je vais donner le point de vue espagnol sur le gros événement d'Espagne, c'est-à-dire le titre de Xabi Alonso, parce que ça fait la une des journées en Espagne.
Julien.
On a encore vécu un week-end à rebondissement dans la course au titre en Première Ligue avec les défaites d'Arsenal et de Liverpool. On va revenir dessus, bien sûr, et Manchester City, le leader désormais, le nouveau leader, et qui verra donc le Real de Fredo venir à l'Etihad mercredi soir. Et on aura une sympa aussi sur une équipe promue dans la division supérieure.
D'ailleurs, j'avais une suggestion de musique à la place de ce que t'as envoyé, qui est très bien d'ailleurs, j'ai écouté, hein, pour le club dont tu vas parler. On en parlera tout à l'heure, mon cher Julien. Et puis Polo, 15 secondes.
Bah, évidemment, on va revenir sur le premier titre en Bundesliga du Bayern Wolfsburg Leverkusen, version espagnole un petit peu. On va évidemment se poser la question du match le plus important de la saison pour le Bayern Munich. Le club va-t-il être déclassé ou pas? Et puis, sur la, dans la minute, on va parler oseille, histoire de ne pas changer tellement.
Voilà, voilà, programme des drôles de dames dans Génération After. Alors, Gilbert, le Bayern Munich est-il un club de gauche, réellement?
Bah, là, c'est vrai qu'il peut.
Bon, j'ai regardé le truc,
j'ai le schéma sous les yeux. On met le Real plutôt à droite, mais pas trop non plus, quoi. Plutôt, bah, et très élitiste, plutôt à droite.
Bah, franchement.
Un peu conservateur, le Real, quand même.
Bah, c'est, non, bah, non, c'est, ça, alors, c'est vraiment ne pas connaître la sociologie des supporters du Real, parce que t'as vraiment tout. Tous les partis politiques.
Ah, donc là, on parle des sensibilités de supporters, en fait.
Oui, ouais,
des supporters. Dominantes.
Mmh. Oui, mais je sais pas si c'est historiquement ou actuellement. Parce que, par exemple, moi, je regardais la Roma, ils le mettent à droite. Et plutôt c'est élitiste. Assez, sauf que historiquement, c'est pas du tout ça. Ça l'est devenu. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Enfin,
moi, je constate que Strasbourg n'est pas dans le schéma. Donc,
j'aurais pas dû. J'aurais pas professionnel, Gilbert. On a toujours fait club professionnel.
Allez, son anniversaire, il est en forme, celui-là.
Y a-t-il un club de gauche en Angleterre, mon cher Julien?
Je sais pas du tout.
Sensibilité.
Ça, ça n'existe pas, la gauche en Angleterre.
C'est pour ça que je pose la question. Exactement. Voilà.
Bon, Gilbert. Ils mettent par exemple le Celtic Glasgow, très à gauche.
Oui.
Ah bon? Selon le schéma.
Ils n'ont pas mis le Rayo. Rayo Vallecano, c'est très à gauche.
Oui, Rayo.
C'est très à gauche, le Rayo.
L'OM,
ils le mettent très à gauche, le Rayo, quand même, là.
Oui.
Ah oui, parce que là, s'ils ne mettent pas le Rayo très à gauche.
Voilà, mode. Comme quoi, c'est fiable. Bon, Gilbert, sinon, à 22h, de quoi parlez-vous ce soir?
Soyez attentifs, à 22h, on a une exclue concernant les Jeux Olympiques qu'on vous livrera tout à l'heure. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne sais pas, une annonce bidon. Hein, donc, soyez au rendez-vous à 22h. Ensuite, le PSG, bien sûr, à la veille du match face au Barça. Quelle équipe, quelle dynamique, est-ce qu'il faut y croire? On vous attend au 32-16. Daniel Riolo et Stéphane Guy veulent en parler. Et puis le week-end de Ligue 1, on viendra sur la course à l'Europe, la course au maintien, bien sûr, après les matchs du week-end. Et puis ce qui s'est passé à Marseille, hein, entraînement ouvert au public, 10 000 personnes au stade Vélodrome ce week-end, des enfants en grande partie, puisque c'était le but, donc de venir avec un enfant accompagné. Donc l'engouement autour de l'OM ne faiblit pas, même quand il n'y a pas de match le week-end sur place. Bref, voilà le programme de 22h à minuit, ça promet, comme tous les lundis.
C'est à peine plus qu'au Trianon, hein.
Ouais, c'est un peu plus qu'au Trianon.
Ouais. Oh, très belle soirée d'ailleurs au Trianon. Ouais, et...
Merci Yon.
Ouais, et les auditeurs très sympas d'ailleurs.
Public de gauche ou de droite d'ailleurs? C'est une vraie question aussi. L'After, émission de gauche ou de droite?
Évidemment.
Bah, là, rien qu'autour de la table, je crois que nous avons un spectre assez.
C'est large.
Bah, moi, je ne sais pas. Moi,
Nous, on ne sait pas.
C'est clair. Enfin, la gauche pour laquelle j'ai voté, la plus grande partie de la vie n'existe plus.
D'accord.
Donc je ne sais pas.
Où dans aller voir ailleurs, quoi.
Bah non, mais je ne sais pas aujourd'hui où je me situe.
Bon, très bien.
Et une couronne sur le maillot, ça fait club de gauche ou club de droite, mon cher Fred?
Une couronne sur le maillot, bah écoute, le RC Lens, on a un chevalet de mine et une lampe de mineur. Donc je ne sais pas si. Au Real, il y a la couronne, bien sûr, oui, parce que bah, comme tous les clubs qui s'appellent espagnols qui s'appellent Real. D'ailleurs, la plupart des clubs espagnols s'appellent Real quelque chose.
Allez, parlons foot. Merci Gilbert.
Allez, c'est alors
à 22h. Le Bayern Leverkusen, donc cet élève moqué, harcelé dans la cour de récré du collège, du lycée, qui finit enfin par tarter tout le monde. 120 ans d'espoir, d'attente, de multiples deuxième places, toujours. Et le voilà champion, mon cher Polo. La revanche du Bayern. Ce n'est plus donc le Leverkusen, pour ceux qui ont découvert ce surnom-là, historique. Il y a un autre surnom d'ailleurs, pour évoquer ça. Bah,
c'est surtout Wiskusen, le plus important, plus que Leverkusen. Leverkusen, c'est parce qu'on se moquait un petit peu du fait de ne pas avoir gagné le championnat, ce qui est toujours un peu illogique lorsqu'on voit l'effectif de Leverkusen chaque saison, et notamment la période 1996-2002, celle où est vraiment né le mot Wiskusen. C'est-à-dire, vice, c'est juste vice, le second. C'est important parce qu'en fait, si tu veux, dans la joie qu'il y a eu, l'envahissement du terrain, etc., beaucoup ont parlé du premier titre en Bundesliga, mais en fait, t'as l'impression que c'est tout l'historique qui s'est effacé d'un seul coup. Et c'est pour ça que c'était extrêmement joyeux. C'est pas spécialement le fait d'avoir fêté le titre en Bundesliga, c'est qu'on a l'impression finalement que 45 ans en Bundesliga sans discontinuer, et en fait avec le fait d'avoir perdu des titres à la dernière journée, ou le fait d'avoir eu plusieurs fois des avances confortables et d'avoir perdu le championnat à l'avant-dernière journée à l'extérieur, ou des buts contre son camp, des choses comme ça, fait que t'as l'impression qu'on est juste en train de rétablir une histoire qui n'aurait jamais dû arriver, en fait. le dans cette victoire, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment un coach espagnol qui est en train de montrer qu'il est en train de devenir l'un des plus grands coachs européens.
Il faut rappeler pour l'occasion l'histoire, c'est qu'il est arrivé en octobre 2022. Le Bayern était avant-dernier de Bundesliga. Ouais, je crois.
À ce moment-là, ils sont avant-dernier de Bundesliga. Mais ça, c'est typique de Leverkusen et de la Bundesliga aussi. On avait avant le coach suisse Geraldo Seguin qui avait ramené l'équipe en Ligue des Champions. Ça s'était mal passé. On prend Xabi Alonso. Il ramène l'équipe en Europe parce que encore une fois, quand il prend l'équipe, il est théoriquement relégable. Il finit en demi-finale de Ligue des Champions d'Europa League. Il craque en fin de saison, ce qu'on oublie, parce qu'ils avaient encore la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions. Et puis, cette saison, j'ai envie de dire la saison 2, et ben Xabi Alonso avec quelques ajustements comme Boniface, comme Grimaldo par exemple, comme Granit Xhaka, qu'on parle beaucoup de lui en Allemagne en ce moment. Eh ben, on a l'un des plus grands champions de l'histoire de la Bundesliga. J'ai fait une petite erreur hier en parlant de ça. En fait, il y a plusieurs choses. Le Bayer Leverkusen n'est pas le premier club allemand à être champion sans défaite. C'est le Pep Guardiola en 2014. Ce qui ne veut pas dire qu'après qu'ils ont eu le titre, ils n'ont pas commis des défaites.
C'est ça.
Ils n'ont pas eu des défaites. C'est ça la différence.
Et encore en route pour être invincible, quoi.
Voilà. Là, ils peuvent encore être invincibles. Deuxième chose importante. Le Bayern 2013-2014 de Guardiola avait été champion dès la 27e journée avec 25 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils sont en avance théorique sur ce Leverkusen version Alonso. Mais si Alonso continue de motiver ses troupes, ils peuvent très bien battre le record, cette fois-ci de 2013 de Jupp Heynckes avec 90
points
par exemple.
Incroyable. Fred, en Espagne aussi, on parle beaucoup de Xavi Alonso. Je rappelle, un très jeune entraîneur. C'était seulement sa deuxième saison à la tête d'une équipe professionnelle. Et t'es adjoint à la Real Sociedad chez les jeunes, c'est ça?
Il a été entraîneur du B.
Du B.
De la B, de l'équipe B. Très bien d'ailleurs, on voyait déjà son style, quoi. Mais de toute façon, enfin, je veux dire, moi je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui, c'était le Mondial 2014, c'était au mois de mars, où il sentait déjà que l'Espagne allait se faire, il craignait vraiment que l'Espagne prenne la porte dès le premier tour. C'est-à-dire qu'il, tu sens, le mec, il sentait les choses, quoi. Et puis, il a toujours été la courroie de transmission de l'entraîneur, sur le terrain. Non, parce que ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est le fait que des journaux comme AS et Marca, avec des matchs de Ligue des Champions essentiels demain après-demain, on fait leur une sur Xabi Alonso et le Bayern Leverkusen.
C'est lui en portrait.
Mais c'est la grosse photo.
C'est pas en haut.
Non. Sport et Mundo Deportivo ont fait ce qu'on appelle des bandeaux, mais AS et Marca, c'est la pleine page. C'est-à-dire la grosse info du jour, c'est Xabi Alonso champion d'Allemagne quand même. Donc c'est dire ce qu'il représente dans le football espagnol. Genre une semaine où il y a pas trop de matchs importants, tu pourrais dire ok, mais là, enfin, on a quand même Barça PSG.
Comment tu l'expliques? La fierté d'avoir un ambassadeur comme ça en Allemagne, un homme qui incarne une nouvelle génération d'entraîneurs.
Totalement. Et la fierté, et aussi parce qu'on sait qu'il sera un jour l'entraîneur du Real. Donc il y a un intérêt très important à le suivre. Et le choix qu'il a fait, on en avait discuté avec Polo, de rester, de pas partir à Liverpool ou au Bayern, c'est d'être prêt dans un an ou dans deux ans pour le Real Madrid, qui sera quoi qu'il arrive un jour son club. Même si j'en ai parlé avec son agent la semaine dernière, lui, il dit qu'il n'a pas pris cette décision-là pour ça. Mais il y a une vraie fierté de voir cet entraîneur, pur produit de la formation espagnole. C'est quelqu'un qui...
Il a une très bonne image. On parle beaucoup de son humilité aussi en Allemagne, mon cher Polo, quand on parle de Xabi Alonso, qui aussi, rappelons-le, la saison est loin d'être terminée, il a la possibilité de faire un triplé. Bundesliga, Coupe d'Allemagne...
Vas-y. Et l'Europa League. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que si j'ai parlé de Pep Guardiola version 2013-2014 et du titre, et qu'ensuite le club, l'équipe s'est relâchée, c'est qu'en fait, moi, je suis jamais rentré dans la logique où j'entends des personnes dire oui, mais ils peuvent gérer les matchs. Maintenant, on est déjà champion d'Allemagne, mettre ça de côté, c'est pas grave si on perd. Lorsque Pep Guardiola gagne à la 27e journée en 2013-2014, c'est juste avant la double confrontation en demi-finale contre le Real Madrid. Et ça fait 1-0 et 4-0 pour le Real Madrid. Et entre-temps, le Pep Guardiola va perdre 2 matchs de championnat. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien faire un débat. Est-ce que Leverkusen va fausser le championnat pour se focaliser complètement sur l'Europa League? Je ne suis pas persuadé, à l'aune de l'exemple que je viens de donner, que ce soit une excellente chose de se démotiver complètement en disant... On va se reposer en championnat. Maintenant, on peut prendre des 3-0, on s'en fiche.
Non, il y a une dynamique.
Il y a des dynamiques, ouais.
C'est 43 matchs sans défaite.
Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense peut-être que ce serait la plus grande des erreurs de vouloir être démobilisé pour le reste du championnat, en dehors du fait que tu peux fausser quelque part, entre guillemets, le championnat. Maintenant, c'est pas de leur faute, ils sont champions. Bon. Mais, donc voilà. Donc, faire un triplé historique, oui, pourquoi pas. Maintenant, quand tu vois les équipes qui restent, je persiste, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, à dire que ce n'est pas une grande équipe. Lorsqu'on voit, par exemple, les Bayern d'il y a une dizaine d'années, quand tu vois les effectifs qu'ils ont, quand tu vois même le grand Bayern de 96-2002 avec Balak, Zé Roberto et compagnie, c'est pas tout à fait le même niveau de l'équipe. Par contre, c'est une grande performance qu'ils ont réalisée.
On prolonge dans un instant sur le mercato du Bayer Leverkusen. C'est intéressant de savoir si tout le monde va rester ou pas, notamment Florian Wirtz. Et puis on ouvre la Ligue des Champions. Manchester City s'avance-t-il en favori face au Real Madrid? On en parle avec Julien Laurence. Restez avec nous, c'est l'After, Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamain. Rôle de dame, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr, 21h45, hein, votre rendez-vous. Vous, les afteriens qui écoutez les drôles de dames le lundi soir, vous nous appelez le 32-16, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien sur Manchester United, par exemple, sur Séville, n'hésitez pas, sur Monza, par exemple aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Pour finir, mon cher Polo, sur le Bayer Leverkusen, c'est la grande question, bien sûr, qu'on a déjà évoquée, parce qu'on sait que souvent dans l'ivresse d'un titre aussi historique que celui-ci, souvent tout le monde annonce qu'il va rester la saison prochaine, parce que le groupe est formidable, parce que le public est merveilleux, parce que la ville est splendide. Est-ce que ce sera le cas au Bayer Leverkusen? Est-ce que certains ont déjà annoncé qu'ils allaient rester dans le sillage de Xavi Alonso, hein, depuis plusieurs semaines déjà?
Évidemment, l'actif le plus important, c'est Florian Wirtz, sa famille a communiqué en disant qu'il allait rester une année de plus. Ah. C'est important. Il y a même des nouvelles sur le fameux Jonathan Tall, international allemand, qui pourrait être titulaire à l'Euro, qui lui n'a plus qu'un an de contrat, était le seul dans une situation un peu compliquée au Bayer Leverkusen. Il voulait partir en Première Ligue, mais apparemment il serait prêt à prolonger. Il nous fait ça de toute façon quasiment chaque année. Et puis la seule autre possibilité, c'est le cas de Frimpong, qui a une clause dans son contrat à 40 millions.
C'est faible pour le joueur que c'est.
Je suis pas tout à fait.
J'aime bien le joueur, quoi.
Mais je voudrais bien voir qu'il soit plus constant. Le jour où il sera aussi constant que Grimaldo, je pense qu'il voudra beaucoup plus.
Frimpong, ça marche très bien dans un système.
Ouais, exactement.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc il est aussi inconstant lors de ses rencontres. Sinon, globalement, il n'y a pas de raison que cette équipe explose. Le vrai problème et la vraie question derrière, c'est est-ce que Leverkusen, après cette saison, peut réitérer en championnat l'année prochaine la même chose? Je pense que oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du court-termisme, parce qu'en 2025, Wirtz ne sera plus là. Qui dit Wirtz parti, Boniface, on verra ce qu'il va faire au bout de 2 ans. Si Xabi Alonso part, on sait très bien que ça va être compliqué de conserver toutes les autres personnes. Et là, on est dans une situation très différente du Borussia Dortmund de 2011-2012, parce qu'on était vraiment dans une longue création avec un coach qui était allemand en plus, Jürgen Klopp, qui était en train d'apparaître sur la place internationale, et qui arrivait par la suite à être en finale de Ligue des Champions. Donc je pense, et en plus, Leverkusen, et c'est tout le problème de ce club qui, n'oublions pas, est un Werksclub, est un club d'usine, un club de fabrique. Le mot Werk, c'est la fabrique à l'ancienne dans le capitalisme. C'est de ne pas dépenser plus qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dominer le football européen alors qu'il pourrait très bien le faire. Donc on ne va pas changer le modèle. On va continuer avec des jeunes joueurs, les pépites, en espérant faire des plus-values, d'être compétitif, évidemment, en Bundesliga pour être dans le top 4, mais on ne va pas changer le modèle.
Voilà pour le Bayer Leverkusen. Ligue des Champions, cette semaine, les matchs, les quarts de finale retour, bien sûr, avec mercredi soir Manchester City, Real Madrid, après le 3 buts partout à l'aller, hein, somptueux, spectaculaire, à tous les niveaux. Julien, préparation tranquille pour City, victoire 5-1 contre Luton, qui leur permet de prendre la tête de PL, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs du titre. Est-ce que ce match a livré des enseignements sur ce qu'a prévu de faire Pep Guardiola?
Non, pas du tout. Il a mis au repos Rodri, qui avait d'ailleurs dit après le match du Real, le match aller, qu'il avait besoin de se reposer, qu'il avait beaucoup trop joué. C'est vrai qu'il a beaucoup joué et pour son club et pour son pays aussi. Donc il a eu son petit week-end de repos. Phil Foden aussi, qui avait fini la rencontre au Bernabeu avec le le trophée du joueur du match, mais aussi avec des crampes et des petits coups à droite, à gauche. Donc lui aussi, il s'est reposé ce week-end. C'était très bien. On a vu Kevin De Bruyne qui a été très bon. On a vu Erling Haaland qui a marqué, Gvardiol qui a encore marqué du pied droit. Je sais pas ce qui lui arrive. Ouais. Et puis un très beau but de Mateo Kovacic aussi, qui pour lui aussi, c'est un match un petit peu particulier, encore une fois. Donc tout va bien. Et en plus, comme on l'a dit, on en parlera tout à l'heure, ils ont eu un très joli cadeau de la part de Crystal Palace et d'Aston Villa le dimanche. Donc un week-end parfait finalement pour Pep Guardiola. Il faisait même beau à Manchester.
De Bruyne, titulaire ce week-end, qui sera bien là également mercredi soir. Mon cher Fredo, toi, est-ce qu'il y a un vent d'optimisme à Madrid avant d'aller à Manchester ?
Oui, bien sûr. Oui, il y a optimisme parce que les gens ne regardent pas les résultats, en fait. Les gens qui connaissent le foot en Espagne regardent le jeu, en fait, ce qui s'est passé. Et le Real était très compétitif à cette équipe de City. Et c'est ça qui compte, en fait. Et l'optimisme qu'il y a lié à, on va pas revenir sur toute l'histoire.
C'était presque rassurant pour eux, presque.
Ah oui, c'était rassurant. Oui, c'était rassurant. Oh, oui, parce que quand même, t'es mené deux fois. Ouais. Tu reviens comme ça. Enfin, il y a quelque chose de. Et en plus, il y a le sentiment que tu as très bien joué et tu as marqué trois buts à City sans Bellingham, en fait, parce que Bellingham fait un très très mauvais match. C'est quand même ta grosse recrue, ton meilleur joueur depuis le début de la saison. Donc là, et puis pareil, pour la préparation, elle a été très facile. Hein. C'était vraiment un match d'entraînement sur la pelouse de Mallorca en français, oui. Et donc but de Tchouaméni d'ailleurs, très très beau but. Tchouaméni qui sera pas là puisqu'il est suspendu. Entre parenthèses, il y a eu des insultes racistes aussi contre Tchouaméni après son but dans le stade de Mallorca. Donc les gens qui disent que c'est à cause que Vinicius, c'est parce qu'il provoque, ben Tchouaméni provoque. Tu vois, voilà, c'est il y a vraiment du racisme en Espagne. Je ferme la parenthèse. Et donc non, il y a un optimisme alors qui est modéré parce qu'ils vont pas dire ah, c'est fait, etc. Non, il y a rien de fait. Mais c'est vrai que les sensations sont très bonnes. Et moi, le soir même dans le vestiaire, ce qu'ils disent au Real, c'était on va gagner à City. C'est-à-dire que les propres joueurs après la rencontre, leur ressenti c'était on va gagner à City. Voilà, c'était le message qu'ils se transmettaient en privé. Les premiers à savoir s'ils ont bien joué ou pas, ce sont les joueurs. Mmh. Enfin, c'est là-dessus. Donc voilà. Après, voilà, ça va être. On imagine que ça va être encore un match spectaculaire et que de toute façon, qui après avoir vu le match aller peut donner un pronostic sur cette rencontre?
Bah, je sais pas ce que vous en pensez. On met encore City favori, légèrement favori, même si ce qualificatif a pas trop de sens. Mais bon, City qui reçoit, City qui peut faire mieux aussi qu'au match aller. Julien, comment tu vois ce rapport de force 7 jours, 8 jours après?
Alors du côté de City, on est aussi confiants. Ils se sont trouvés bons, notamment en seconde période au Bernabeu. Même s'il y a ce but du 3-3 qui vient, alors qu'ils considèrent qu'ils auraient pu gagner 3-2. Je pense que ce sera un match encore très ouvert et qui finalement ressemblera beaucoup au match aller, finalement, parce que le Real jouera de la même façon. À l'extérieur, ils ont joué à domicile comme s'ils avaient joué à l'extérieur, finalement. C'est un petit peu pareil dans la tactique et qui a très bien marché. C'est pas une critique du tout de la tactique, c'est la façon de jouer qui sera.
Ils avaient quand même bien renforcé le milieu de terrain. Il y avait 4 joueurs qui savaient défendre au milieu de terrain.
Oui, bien sûr. Et je pense que si Kyle Walker, Edrour et Pep Guardiola dit qu'il pourrait jouer, effectivement. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si tu pourrais l'aligner d'entrée ou pas, parce que si après il risque de se reblesser ou quoi, ça resterait compliqué. Mais forcément, avec Kyle Walker, ne serait-ce que pour l'adverse, pour que Vinicius se dise, oh, je pense que si Vinicius il voit Akanji et si Rodrigo voit Akanji, ils se disent, bon, on va lui faire la même chose qu'à l'aller. Si tu vois Kyle Walker, tu peux dire, bon, ce ne sera pas la même histoire qu'au match aller. Donc, ne serait-ce que pour psychologiquement avoir ce petit boost-là, si Walker pouvait être titulaire, je pense que ce serait une très bonne chose pour City. Donc à mon avis, ça va vraiment être encore une fois super intéressant. Je sais que Volendam joue encore, il joue à chaque fois un soir de Ligue des Champions. Je sais pas ce que Yo va faire,
même pas il réagit quoi.
Non mais Julien, arrête de faire le teubé de Twitter, tu vaux mieux que ça.
À un moment donné,
le discours c'était pas ça. Donc essaye de faire autre chose que les mecs sur Twitter.
Mais te vexe pas, ça chante gentiment. Tu sais bien que tu l'as regardé.
Teubé sur Twitter, c'est un pléonasme.
Voilà, Polo voulait rajouter son petit grain de sel, évidemment. Mais Polo est sur Twitter aussi, vous le savez, vous pouvez trouver son compte qui a cartonné en 6 mois, c'est incroyable.
Très bien.
Cinéma, vélo et échec. Voilà. Et football aussi. Ouais, voilà. Parfois. Un mot quand même, Tchouaméni suspendu. Eder Militao a fait son retour ce week-end. Ouais, certains pensent qu'il allait débuter, mais bon.
Il a vraiment joué quelques minutes. Enfin, franchement. Voilà.
Blessé depuis août 2023.
Ben oui, non, mais je veux dire, il a eu le ligament croisé et tout. Enfin, je veux dire, ça me paraîtrait. Alors peut-être que pour une hypothétique demi-finale, on pourrait le voir un petit peu, mais oui, là, mais là, mais là il a deux fois trois minutes dans les jambes. Enfin, ça me paraît pour un match.
Donc, solution, ce sera quoi s'il n'y a pas de
Chouameni? Nacho.
Nacho, forcément.
Et mais Nacho, c'est franchement cette saison, c'est très dur pour lui. C'est vraiment très dur. Là, c'est vraiment le gros coup. Après, Chouameni fait un mauvais match, mais physiquement, Nacho, c'est vraiment plus que ça a été, quoi. Donc, et il faut que Rudiger soit aussi bon. Rudiger qui a été absolument monstrueux face à Haaland. Il faut que Rudiger refasse le même match. Voilà, donc c'est non, il y a
et que Bellingham en face un autre également.
Et que Bellingham aussi, donc il y a plein d'inconnus en fait. Et en fait, on sait que ça va être bien, mais il y a plein d'inconnus. Et ça qui est génial.
Regardez Bellingham 2024, 12 matchs, 3 buts. Hein.
Non, c'est pas du tout. Il est
17 en 2023.
Il est en train de digérer son arrivée en Espagne. Il y a toujours un moment, contre doute, etc.
Contre-coup.
Ouais, un contre-coup, tout ça. Il y a une grosse excitation à son arrivée. Il expose tout le monde, etc. Puis après, à un moment, il y a une vraie baisse. Mais bon, c'est le moment de. De quelle matière est fait ce joueur? C'est dans des matchs comme ça qu'on va le voir, quoi. T'es pas bon à l'aller. On va voir au retour. On va parler tout à l'heure d'Mbappé, pas bon à l'aller. On imagine qu'il va être meilleur à Barcelone demain soir. Donc c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc moi je trouve que j'ai très très envie de voir ce match.
Trois parties de l'aller, la suite mercredi soir. Ce sera sur RMC en direct, bien sûr. C'est l'heure de la première lutte de la soirée, qui est un grand succès, m'a dit Johan, hein, qui a reçu des louanges des Afteriens vendredi soir sur la minute musicale. Elle est italienne. C'est parti, on envoie la musique. C'est un classique,
grand clé belle.
Tony Renis, Quando, 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 avec les multiples reprises, interprétations, remixes qu'il y a eu partout dans le monde de ce très grand classique. Co-auteur d'ailleurs, cet homme-là, de l'hymne de l'AC Milan en 1988. Grand fan du coup de l'AC Milan. Et c'est Berlusconi qui lui avait demandé, Berlusconi qui venait de prendre le club il n'y a pas très longtemps, et comme il avait commencé à le remettre au plus haut niveau, même européen, très rapidement avec Sacchi, il lui avait dit, écoute, je sais que t'es supporter du Milan, on est en train de prendre une dimension européenne assez importante, ce serait bien que tu nous fasses un petit hymne. Donc il s'était exécuté avec grand plaisir. Et on va parler des gardiens, parce que on a eu un samedi, très très compliqué en termes de spectacle. En termes de but surtout, parce qu'il y a eu un but en trois matchs, donc c'était pas génial, 2-0-0. Notamment le derby de Turin qui était quand même pas génial. Mais à chaque fois dans ces matchs-là, il y a eu des gardiens qui se sont montrés vraiment particulièrement rigoureux sur leur ligne de but. Je pense à Chesney, je pense à Caprile sur le match d'Empoli et Falcone de Lecce. Et c'est vrai que cette saison, c'est une constante. Je crois que j'avais déjà fait un petit truc sur les gardiens en début de saison. Et on a vraiment des gardiens de très très bon niveau, y compris dans les petits clubs. Je parlais de Falcone à Lecce, Caprile à Empoli, et je vais m'arrêter juste un instant sur Caprile. Parce que lui est vraiment excellent. Alors il est arrivé, il devait remplacer Vicario qui est chez Julien maintenant. Vicario qui est à Tottenham, qui d'ailleurs fait plutôt une bonne saison d'après ce que j'ai cru comprendre. Et Caprile est arrivé avec cette pression-là, et en plus on l'a même pas mis titulaire tout de suite. Lui il arrivait, il est prêté par Naples, et il avait fait une super saison avec Bari, failli monter en Serie A, etc. Et il arrivait remplaçant, et puis au bout d'un moment on s'est dit bah il est tellement plus fort que le titulaire qu'ils l'ont mis à son tour dans les buts. Et depuis qu'il est là, en fait, il rassure tout le monde, il est très explosif, il est très très bon sur sa ligne. Ça suffit pas toujours, mais ce qui est clair, c'est que si Empoli veut se maintenir en Serie A, et ils sont clairement dans la lutte pour ça, ils pourront dire merci à Caprile. Ils auront besoin d'un bon Ilia Caprile jusqu'à la fin de la saison. Et d'ailleurs, l'année prochaine, peut-être, parce que c'est très incertain autour de Meret à Naples, peut-être qu'il pourrait revenir de près et être le gardien numéro 1 à Naples.
Italie, grand pourvoyeur de grands gardiens, bien sûr. Hein. Un top 3, top 3 gardien italien, histoire, Johan.
Dinosov.
Ton top 3. Buffon, Dinosov.
Zoff, Buffon, après. C'est dur, hein. Après.
Polo.
On a eu très bon, nous, en Angleterre, hein, Taibbi.
Ouais, non, pas celui-là, du coup. On choisira un autre. Bon. Non, mais après, entre. Moi, j'aimais bien Angelo Peruzzi.
Spaliuka aussi, je me rappelle.
Spaliuka, Toldo. On a eu quand même des très, très bons gardiens. Mais je mettrais peut-être Peruzzi quand même.
Peruzzi, quand même, ouais. Sur le podium.
Juventus et Lazio, il a été très, très fort. Ouais.
Bon. Dans un instant, les amis, la suite de Génération After avec les drôles de dames. On va évoquer notamment la fin de saison de l'AC Milan avec toi, mon cher Johan.
Non, je viens tout de suite de tilter Zenga, évidemment. Zenga. Walter Zenga de l'Inter, bien sûr.
Reste avec nous, on revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
avec les quatre rôles de dames. À partir de 21h, on parlera du Barça PSG, bien sûr, demain soir à Montjuïc, en Catalogne, avec les infos de Fred, la composition, les éléments que l'on pourra vous donner dès ce soir. D'abord, je voulais qu'on parle également de l'AC Milan ce soir avec toi, mon cher Johan. On parlera de Liverpool, hein, qui avec une semaine à peu près similaire, même si le Milan a quand même pris un point hier, après sa grosse défaite, sa défaite étonnante contre la Roma en quart de finale aller de Ligue Europa en milieu de semaine. Un mauvais 3-3 contre Sassuolo qui n'avait pas marqué. Je regardais un 3 buts dans un match en 2024. Hein. Avant-dernière équipe de Serie A, qui en a collé 3 à San Siro. Ah non, c'était à Sassuolo.
C'était à Reggio Emilia.
C'est quoi le problème là, actuellement là? Pourquoi tout s'est
En fait, sur les deux matchs, il y a des points communs entre le match de jeudi contre la Roma et le match de dimanche contre Sassuolo. Le premier, c'est des vrais trous d'air défensifs qui sont très surprenants parce que assez inhabituels. L'organisation de Pioli, elle plaît pas. Il y a des supporters du Milan qui en peuvent plus de Pioli, où c'est un peu toujours la même chose, etc. Mais globalement, c'était quand même assez solide, assez propre, assez concentré. Où lui, avec des joueurs parfois bons sans plus, en a fait quand même des très bons joueurs aussi. En tout cas, dans le collectif milanais, étaient devenus des très bons joueurs et des joueurs importants. Mmh. Et c'est vrai que là, sur les deux matchs, moi, il y a des choses qui m'ont vraiment surpris. Si on un court instant sur le match de jeudi contre la Roma. Moi, le début de deuxième mi-temps, alors pendant 70 minutes, Milan est dominé. Donc, ce qui est déjà assez problématique, je trouve. Non pas que la Roma ait des mauvais joueurs, loin de là, mais quand même, t'es censé être à un niveau au-dessus. Mais c'est plutôt que, en début de seconde période, il y a quand même eu des phases de jeu où t'avais l'impression que la Roma faisait un taureau à San Siro. Et ça m'a plus gêné parce que ils étaient tout le temps en retard dans toutes les courses. Ils en faisaient assez peu de courses, donc les joueurs de la Roma étaient assez libres de bouger, d'avancer, de reculer, de faire des déplacements latéraux et de trouver toujours un joueur libre, même pas simplement le troisième joueur libre. N'importe qui était libre, en fait, parfois en deuxième période à San Siro, en tout cas au début de seconde période. Donc j'ai été assez surpris là-dessus. Et ce week-end, ce qui m'a le plus gêné, je crois, c'est l'impression d'avoir des joueurs totalement passifs. Un peu comme contre la Roma, mais tu te dis, sur un match, allez, pourquoi pas ? Très bien, mais tu te dis, après avoir pris une petite claque quand même jeudi soir en Europa League, des critiques qui sont arrivées quand même un peu de la presse, Pioli n'était pas content, je pense que les joueurs n'étaient même pas contents non plus, les dirigeants n'étaient pas contents. Faire ce match-là, cette entame de match-là, Sassuolo, où tu prends deux buts en 10 minutes, où tu es totalement passif, amorphe, tu ne réagis à rien, les joueurs de Sassuolo, t'as l'impression que c'est des avions de chasse, alors que pas du tout. Enfin, t'en as certains qui sont bons, mais pas à ce niveau-là. Et t'as un Kjær qui est catastrophique, t'as un Thio qui a les fesses entre deux chaises parfois sur les occasions, entre sortir sur son joueur mais faire reculer pour couvrir ou faire le déplacement latéral pour aller doubler sur le côté, mais en même temps t'as un joueur qui vient dans sa zone, donc ça a été très très compliqué.
C'est pas une décompression Serie A, ils sont tranquilles en Serie A, ils seront Ligue des Champions, ils seront top 4, ils ont 6 points d'avance, ils sont deuxième.
Mais en fait tu devrais pas avoir j'ai pas envie d'y croire en fait, parce que tu as clairement affiché que t'avais envie de gagner l'Europa League. Si tu as envie de gagner l'Europa League, tu ne peux pas faire 70 minutes comme ça à domicile contre la Roma. On n'est pas en train de parler de... La Roma a beaucoup progressé avec De Rossi, je l'ai évoqué, il y a des joueurs qui sont bien, qui sont en forme, etc. Mais moi, ce que j'ai vu pendant 70 minutes, c'est pas acceptable de cette équipe de Milan. Tu peux perdre 1-0 à domicile, tu as des occasions, tu les mets pas, le match est un peu débridé, ça va dans tous les sens, tu le perds, pas de problème. Là, c'est pendant 70 minutes où ça a été compliqué. Et ce que tu vois surtout, c'est que quand ils accélèrent, quand un peu l'étincelle apparaît et que tout se remet un petit peu en ordre, tu retrouves la machine Milan. Contre Sassuolo, ils sont capables de... Alors évidemment, avec un grand Leao qui avait été sifflé jeudi soir contre la Roma, parce que lui aussi était tellement déconnecté, tellement à part, tellement à l'ouest, même sur le terrain, que les supporters l'avaient pris en grippe. Enfin, une partie, puisqu'après la courbe à soude, c'était les inhabituels, on va les appeler comme ça, l'avaient pris en grippe. Et les ultras, la courbe à soude, les habituels, l'avaient ensuite acclamé pour lui remonter un petit peu le moral. Et tu vois très bien que Leao, à Sassuolo, il a fait des dégâts mais incroyables. Mais parce que c'est ce type de joueur-là. Et moi, j'ai du mal à comprendre ces trous d'air qui ne sont pas des trous d'air de... Parfois, tu as des équipes blackout pendant 10 minutes, tu sais pas comment ça te tombe dessus, boum, 3 buts. Là, ça dure 70 minutes contre la Roma et ça dure un peu plus d'une mi-temps contre Sassuolo. Ça, c'est gênant. Et Pioli va vraiment devoir remettre tout le monde dans l'objectif de être un favori de Ligue Europa et donc de jouer, de se présenter mentalement en condition d'un vrai favori de Ligue Europa pour le match retour à Rome. Je suis à peu près certain qu'on verra pas un Milan comme ça à Rome.
C'est ça.
Je veux pas y croire. Je sais pas si c'est parce que je m'appuie sur ce que j'ai vu de Milan depuis plusieurs saisons maintenant avec Pioli, où c'est rare quand même qu'il déconnecte à ce point-là, ou si c'est un truc de se dire, ouais, c'est Milan malgré tout et ça ne peut pas être ça pendant 3 matchs d'affilée. Je sais pas quel est mon, mon leitmotiv pour croire à ça et pour croire, parce que finalement on pourrait très bien dire bah ça fait deux matchs qu'ils font pourri comme ça, pourquoi ils feraient pas un troisième. Moi j'ai envie de croire que en fait c'est deux erreurs et qu'ils sauront rectifier un peu le truc, parce qu'il y a aussi malgré tout des grands champions dans cette équipe de Milan.
Rendez-vous jeudi donc pour ce quart de finale retour, 21h, AS Rome, AC Milan. C'est parti pour la deuxième minute de la soirée. Elle est allemande, on envoie la musique s'il vous plaît.
Écoutez, s'il vous plaît. Geld oder Leben, qu'on pourrait traduire en français la bourse ou la vie. Ah. Ma grand-mère ajoutait la canne ou le parapluie. Mais le.
La mienne aussi.
Comme quoi, tu vois. Voilà, c'est pour les jeunes, vous n'avez pas le plus.
J'avais plomo ou plata en espagnol également. C'est ce que disait Escobar.
Exactement.
Escobar. Oui. Donc cette chanson, évidemment, c'est un groupe autrichien qui s'appelle EAVO, pour ceux qui connaissent, qui veut dire Erste Allgemeine Versicherung. C'est une petite blague par rapport aux assurances généralistes allemandes. Donc là, ça veut dire plutôt première incertitude générale. Donc c'est une. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette chanson? Évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture, la vente aux enchères, les appels d'offres pour la Bundesliga, notamment, y compris en Suisse, en Autriche et dans d'autres pays, au Luxembourg, etc., pour la période 2025-2029. Et donc la grande question qui se pose en Allemagne, c'est de savoir si on va continuer à recevoir plus d'un milliard d'euros par an de droits domestiques. Et donc tout ça, évidemment, commence à être un débat important en Allemagne. L'ouverture, et c'est aujourd'hui, vous avez le droit, les gars, de postuler.
Et la fermeture?
La fermeture, je ne sais pas du tout.
Je ne sais pas. Bon, on verra ça. En tout cas, j'aurai deadline.
Il y a un décor général. Par contre, ils sont très optimistes parce qu'ils ont, ils ont quand même des partenaires qui sont là.
1 milliard l'Allemagne actuellement.
C'est 1 milliard 160. Alors, en moyenne, c'est 4 milliards 640 millions sur 4 ans.
Sur 4 saisons. Ouais.
1 milliard 160. Il y a eu un rabais lié au Covid.
J'avais oublié. Que c'était...
Bah, c'est comme nous, en fait. C'est nos championnats, c'est pas... en Espagne, c'est 1 milliard.
C'est un peu moins d'un milliard, en Espagne.
Voilà.
On est tellement loin.
Et l'Angleterre, c'est 2, si je dis pas de bêtises.
C'est 200, je crois. 2.100, je crois. Ça, il me semble, 2 milliards.
Bon, voilà. La Bundesliga, c'est le deuxième chiffre d'affaires structurel européen.
Simplement. Bon, alors notre débat sur le meilleur gardien d'Italie a fait réagir sur le chat, hein, bien sûr. On parle de Toldo également. Pourquoi pas Toldo aussi, pourquoi pas. Tu l'as cité, Toldo?
Oui, je l'ai cité.
Bon, évidemment, en Angleterre, personne ne sait de nom. C'est très étrange, là, parce que j'en parlais. Il n'y a pas, quoi. Voilà.
Bon, en Espagne, je considère que c'est. Il y a eu une grande histoire.
Il y en a peut-être, les clubs anglais, il faudrait regarder dans les années 20 ou truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, à peu près au siècle d'avant, au début, ouais.
Années 20, c'est pas du tout.
C'est ça, non, c'est ça. Je sais.
J'ai pas écouté.
Avant le football.
C'est quoi la question? J'ai pas entendu la question. Les gardiens. Peter Shilton, bien sûr.
Ah oui,
Kevin
Seaman.
Calamity James. Vous avez oublié Calamity James? Non, il a rigolé quand même. Un grand copain à moi, David James. Hein, et je sais qu'il nous écoute. Okay. Alors, je passe le bonjour.
Bon. Voilà. Allez, on revient dans un instant pour lancer notamment la soirée de Ligue 2 avec Edouard G qui intéresse particulièrement ce match aussi. Johan Crochet, puisque Angers joue ce soir contre Grenoble. C'est parti. Allons-y maintenant, le coup d'envoi à l'instant au Stade des Alpes. Bonsoir Edouard G.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Ça part dans quelques secondes. Ce sont les Grenoblois qui donnent le coup d'envoi. Ce match qui oppose deux équipes qui dévissent totalement. Hein. Grenoble, un point sur 24 sur les 8 derniers matchs. 7 défaites, un seul nul, une équipe qui visait les barrages le 5 février dernier, désormais qui vise le maintien. Angers, la chute est moins spectaculaire, mais quand même, Saint-Etienne est passé devant au classement et il faut au minimum ramener un petit point de cette partie pour essayer de reprendre la deuxième place au vert. Coup d'envoi donc à l'instant 0-0.
Dans un instant, la course au titre en Première Ligue, Liverpool qui sera à Arsenal aussi, puis la Talenta au programme qui commence son match ce soir en Serie A. Reste avec nous et le Barça bien sûr avant le PSG. C'est Génération After spécial Drôle de Dame sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet, c'est Génération After avec les Drôles de Dames comme tous les lundis soirs jusqu'à 22h sur RMC. Je rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot. C'est bonsoir à Bam Bam qui assure la modération ce soir. Vous êtes nombreux à nous regarder. Vous pouvez commenter également sur le chat. Bonsoir à Nicolas notamment qui nous regarde. Alors, Julien, Jürgen Klopp est-il en train de rater sa sortie? Horrible semaine, commencée par un 0-3 contre l'Atalanta, achevée par une défaite affreuse affreuse, ignoble contre Crystal Palace à Anfield qui va ruiner peut-être les espoirs de titre.
Ouais, c'est vrai, semaine cauchemardesque. Tu as raison, dans les résultats en tout cas, dans les performances, c'était deux performances différentes. Autant contre l'Atalanta, ils ont été largement dominés, même s'ils ont eu quelques occasions. Mais bah, dans le jeu, dans les choix de Klopp aussi, de faire tourner autant contre une équipe pareille. Peut-être qu'il a pris ce match un petit peu à la légère, étant donné que c'était à domicile, il y avait de la tension avec les supporters, puisque Liverpool a décidé d'augmenter les prix des places de 2% pour la saison prochaine. Les supporters sont pas contents. Donc, il y avait pas mal de problèmes avant ce match contre l'Atalanta. Ensuite, ils ont été battus par une très belle équipe qui aurait facilement pu marquer 5 ou 6 buts à Anfield. Et puis après, ce match contre Crystal Palace, effectivement, hier, un match perdu 1-0, où encore une fois, la fragilité défensive de cette équipe, fait mal aux yeux, parce que même avoir la réaction de Klopp après le but de Crystal Palace, où il est là debout devant son banc et il dit waouh, waouh, et tu peux lire sur ses lèvres que même lui est choqué, même lui n'a pas l'impression de reconnaître finalement sa défense, son équipe, son collectif, cette équipe qu'il a construite et reconstruite plusieurs fois et qu'il a amené tout en haut finalement, et qu'il a peine est à la peine en ce moment, cette semaine, mais aussi avant. Même s'ils ont gagné contre Brighton par exemple, ils avaient eu du mal. Contre United, ils auraient dû gagner, mais ils n'ont pas gagné. Et encore une fois, ils ont eu des occasions contre Crystal Palace. Un autre jour, ils peuvent gagner 3-2, faire 3-3, gagner 4-3. Mais là, ça, même offensivement, ça fonctionne plus, ça clique plus. Darwin Núñez, Luis Diaz, Mo Salah, c'est compliqué. Ils marquent un but tous les 15 tirs maintenant. Et je crois, j'ai regardé tout à l'heure leur shot conversion, donc le pourcentage de tirs qui se transforme en but. Et l'un des plus bas de première ligue, ils sont en dessous de la barre des 8% ou 7%, c'est catastrophique. Donc il y a un gros problème défensif, ça on l'a dit souvent cette saison, où ils prennent des buts un peu trop facilement, comme dimanche contre Crystal Palace. Et puis maintenant, avant ils se rattrapaient avec cette activité offensive, ces joueurs qu'ils ont offensivement incroyables, les joueurs sortis du banc aussi. Et là c'est plus le cas, et quand forcément ni l'un ni l'autre ne va, c'est compliqué pour eux. Et ils sont encore en course pour le titre, c'est pas la question. Ils sont à 2 points derrière City. City peut aborder des points, Arsenal aussi, ils peuvent, bien sûr, donc c'est encore possible. En Ligue Europa, à mon avis, c'est cuit. Mais en championnat, ça peut être encore possible. Mais ils sont passés de premier à troisième en l'espace de 10 jours.
Mo Salah, on nous en parlait également sur le chat, il est plus tout à fait celui qu'il était avant sa blessure. Hein. Ça, c'est incontestable, Julien.
Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Alors oui, il y a eu la blessure, il y a eu le départ à la Cannes, la blessure à la Cannes, le retour. Après, il marque contre United, il marque contre Brighton, il marque contre Brentford. Donc il y a des buts aussi. Mais c'est vrai que t'as l'impression, quand tu le vois, je pense qu'il y a il y a l'impression visuelle qu'on a déjà de lui sur le terrain ou quand on est au stade. Il y a les stats qui ne mentent pas non plus, surtout si vous êtes fan de data et de stats. C'est vrai qu'il est moins bon. Est-ce qu'il est moins soutenu aussi? Est-ce qu'il est moins bien entouré? Est-ce que, par exemple, le fait que Trent ne soit pas là derrière lui, que Szoboszlai, il formait un très joli trio tous les trois comme ça en première partie de saison, Trent, Szoboszlai et Salah. Est-ce qu'il y a peut-être aussi son avenir qui lui trotte un peu dans la tête? Il lui reste qu'un an de contrat. Est-ce que Liverpool va lui offrir quelque chose encore? On ne sait pas. Il a 32 ans maintenant. Est-ce que c'est le moment pour partir en Arabie Saoudite? Est-ce que c'est pas le moment? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui peut-être le gênent aussi. Et puis il y a quand même ce collectif qui est moins bon, il faut le dire, qu'il y a encore quelques semaines.
C'est dommage pour Jurgen Klopp, hein, de manquer cette sortie-là, alors qu'il pouvait, il peut encore miser sur un doublé, même si
c'est quadruplé même, Nico. Ouais, quadruplé. Ils étaient en course pour les 4. Pour l'instant, ils ont une coupe de la Ligue et puis
ça fera peut-être 0. Ouais. On verra ça, bien sûr. Tiens, Johan, un mot sur l'Atalanta, hein, qui va recevoir Liverpool 3-0 à Anfield au match aller, qui est sur le terrain là actuellement, après 8 minutes de jeu, 0-0 contre Hellas Vérone. Comment on aborde ce match? On se dit attention, ça reste Liverpool.
Ils le disent d'autant plus qu'ils ont pris 5-0 en Ligue des Champions à domicile contre Liverpool il y a 2 ans de mémoire, ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement.
Ouais, Covid.
Ouais, c'était il y a 3 ans. Donc, même si époque particulière, match de phase de groupe de Ligue des Champions et pas match à qualification, à élimination directe, ce que vous voulez, très bien. Mais il y a quand même un gros souvenir de l'impression qu'avait fait Liverpool à Bergame. Donc non, très heureux, un peu surpris même au sein du club de la victoire à Liverpool. Le sentiment qu'ils pouvaient en mettre aussi beaucoup plus, comme l'a dit Julien, le sentiment aussi qu'ils auraient pu en prendre un ou deux à 0-0, qui aurait peut-être fait basculer le match d'une autre façon, même si Liverpool fait pas un grand match. Mais oui, on est dans une espèce de transe émotionnelle à Bergame, parce que ça
carrément
serait, ouais, bah parce que
bah tu, oui, forcément, oui.
Ça pourrait être une demi-finale européenne. Ils en ont connu une, c'était en 88, c'était en Coupe des Coupes. Ils venaient de monter en Serie A, donc c'était une équipe promu.
Il y a eu un quart de Ligue des Champions depuis.
Ouais, mais en une demi-finale, il n'y en a eu qu'une en Coupe des Coupes, ouais, en 88, contre Malines, de mémoire.
Ah oui, belge.
Qui avait gagné d'ailleurs la Coupe des Coupes contre l'Ajax en finale.
Tout à fait. Notre époque.
Autre époque avec Ad De Mos, l'entraîneur de, ouais, de Malines. Mais oui, on est dans cette veste de transe parce qu'on a une attente incroyable de retrouver ce niveau de la compétition en se disant en plus que il y a possibilité d'aller en finale. Donc,
soit Benfica, soit Marseille. Hein.
C'est ça. Et je peux vous dire que en Italie, le rêve encore d'une finale 100% italienne, comme on avait très souvent dans les années 90 avec la C3, est de retour un petit peu avec beaucoup de nostalgie. Je lisais un édito il y a 3 ou 4 jours en disant ouais, qu'est-ce qu'on était fort dans les années 90
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai 2 finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose, soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou. Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Johan Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner et Fred Armel. Et drôle de dame, le football étranger le lundi soir sur RMC. Il est 21h03, on est ensemble jusqu'à 22h. Tout à l'heure, Gilbert, bien sûr, prendra le relais avec une information à partir de 22h. Soyez au rendez-vous sur RMC avec Daniel Riolo, Stéphane Guy également. Tiens, mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Nous vous offrons 100 places sur RMC. C'est un événement. Dès aujourd'hui, hein, dans chaque émission d'RMC, chaque semaine, toute la semaine, vous allez pouvoir remporter vos 2 places pour assister aux épreuves des JO, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres hommes ou femmes, judo, tennis de table, natation et bien plus encore. Vous envoyez Paris 2024 au 732-16, Paris 2024 au 732-16 et vous aurez une chance, hein, d'être tiré au sort et de gagner donc 2 places au choix pour les Jeux Olympiques. L'été prochain à 102 jours désormais. Toujours pas d'entrée des échecs aux Jeux Olympiques. Le breakdance a fait son apparition. On verra pour plus tard pour les échecs.
On va expliquer.
C'est un sport. Breakdance.
Breakdance, c'est un sport.
C'est un art physique. C'est un art physique. Enfin, c'est pas un sport. Il y a un effort. Transpire. Bref. Alors, demain soir, Barcelone, Paris Saint-Germain à Montjuic. Le stade olympique, hein, 92, Marie-Jo Pérec.
Eh oui.
Ça, magnifique souvenir. 3-2 à l'aller pour le Barça au Parc des Princes. Comment va le Barça niveau confiance, Fredo? Parce que Lucien Riquet, je te dis, a dit aujourd'hui, je voyais ça tout à l'heure, qu'il était convaincu qu'il allait renverser le Barça.
Oui. Bah, et au Barça, il y a une confiance, mais modérée. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout, pour eux, avoir gagné 3-2 là-bas, c'est un peu comme le Real. Ce sont les sensations qui plaisent plus que le résultat. Et c'est vrai que bah, la préparation, elle pouvait pas être meilleure que pour cette équipe du Barça. Un match à Cadix, un petit entraînement, un entraînement sympathique avec un superbe but de João Félix, avec 8 changements par rapport aux 11 qui avaient joué au Parc des Princes. Donc, c'est-à-dire que, il y a eu un vrai repos pour les joueurs du Barça. Déjà, vous vous souvenez qu'à l'année, ils avaient 10 jours de repos. Là, la plupart des joueurs ont eu une semaine de repos. Donc, c'est idéal. Il n'y a pas eu de blessés. Pedri, et c'est là l'information du soir, Pedri est rentré encore, on sent qu'il a de bonnes sensations. Donc, aujourd'hui, quand on écoute Xavi Hernandez aujourd'hui en conférence de presse, on sent que Pedri va être titulaire.
Ah, voilà.
Voilà, on le sent. Enfin voilà. Donc on peut déjà donner le 11 quasiment. Bah après,
vas-y.
Il y aura peut-être un changement.
Sachant que deux suspendus,
Christensen qui sont Sergio Roberto et c'est Christensen. Donc tu auras Ter Stegen dans les buts. Koundé, Kubarsi, Araujo, Cancelo. Milieu de terrain, ça va te plaire, Gundogan, De Jong, Pedri, et devant.
C'est terrible.
C'est terrible.
Je pense à Julien qui nous écoute, mais quand tu compares les deux milieux de terrain.
Ben ils sont très beaux, hein. Après,
non, il y en a un qui en revoit un peu plus que l'autre.
Et en attaque, bien sûr, ceux de l'autre jour, c'est-à-dire Lewandowski, Lamine et Rafinha qui a été l'homme du match. Donc c'est vrai que c'est aussi un 11 pour avoir le ballon aussi, hein. Tu vois, quand t'as Pedri, De Jong et Gundogan, voilà. Donc après, je suis pas dans la tête de Xavi, hein, peut-être qu'il y aura une petite surprise. Mais sincèrement, là, on est. Alors Pedri a peut-être pas
non, mais, dans les... voilà,
mais ouais, mais sauf qu'il a fait deux bouts de match là à Paris très bien, à Cadix très bien, ben ce 11 là il commence à avoir de la gueule. Donc c'est l'erreur du PSG, c'est de ne pas avoir profité des voilà du petit retard physique de certains joueurs il y a une semaine, enfin il y a 6 jours. voilà, pour s'imposer.
Je lis qui a suivi le match, évidemment, supporter du PSG. Comment tu sens ce duel également? La question qu'on se posait aussi à la rédac, c'est un débat qui nous anime, qui anime la rédac d'RMC depuis le match aller. Est-ce que Paris peut le faire? Comment Paris peut le faire? Est-ce que Paris est meilleur que, dans l'absolu, que le FC Barcelone? C'est des questions très basiques, hein, mais.
Non, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que ce sera une meilleure équipe du PSG que la semaine dernière, puisque Hakimi sera titulaire et Zaïre Emery aussi.
Donc, avec et Mbappé va peut-être jouer aussi.
Oui, je pense qu'Hakimi peut changer pas mal de choses, avec ballon notamment, dans la construction du jeu, dans tout ça. Ce sera en tout cas beaucoup mieux qu'un Lucas Hernandez arrière-droit, comme on l'a vu, ou un Marquinhos arrière-droit, selon la première période ou la seconde période du match de mercredi dernier. Je pense qu'effectivement, Kylian ne fera pas un deuxième match aussi terne que le premier. Donc oui, je pense qu'il y a des raisons d'espérer côté PSG, c'est sûr. Je serai au match avec deux de mes enfants aussi. On sera 3000 Parisiens derrière le PSG.
Ah, tu vas dans le top. Magnifique. Un parkage?
Non, hospitalité. On va pas avoir, les gars, quand même.
Comme tu dis, on sera avec 2000 Parisiens. C'est bon, elle se mêle au
sommet. On chantera, mais
vous allez apprendre ce soir une expression espagnole qui est très utilisée. Todavía quedan clases. Il y a encore des classes sociales. C'est ce qu'on dit en Espagne. Quand tu dis tu vas dans le parc.
Non, je pense qu'en plus qu'il a déjà été un peu. T'as fait les virages au parc déjà, mon cher Julien.
Ah oui, les virages, plein de fois, oui, ça. Merci.
Bon, depuis, t'as changé, t'es un peu embourgeoisé, c'est normal. Quand on est invité.
J'ai 43 ans maintenant.
Voilà, c'est ça. Bientôt 44.
Quelques millions là-bas.
Non, mais voilà, je pense que c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce sera un match à voir, sincèrement. Ce sera un très joli match qui sera encore très ouvert parce que les deux équipes vont attaquer. Le Barça ne peut pas faire autrement. Ils ne vont pas garer le bus, comme pour reprendre l'expression qu'on utilise souvent dans l'émission. Le PSG doit attaquer pour marquer, pour gagner. Ils sont obligés de gagner de toute façon. Donc, je pense que ce sera un très beau match retour. Après, le Barça est logiquement favori puisqu'ils sont à domicile, ils ont un but d'avance. Donc, voilà, après. À quel niveau ils sont favoris? Est-ce que c'est 55-45? Est-ce que c'est 60-40? 70-30? On verra bien demain, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même pour le PSG.
La nouvelle règle, quand même, l'abandon de ce but, ça change tout parce que tu dis 4-3.
L'avantage du but extérieur.
T'as 4-3. Avant, on disait c'est fait. Voilà, parce que on n'imaginait pas marquer ton but. Voilà, mais sauf que là, voilà, moi, je trouve que. Cette réforme est vraiment hyper positive pour les Macs de Ligue des Champions. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et
après, je sais pas, moi j'aimais bien.
Le Barça, et ça c'est la chance du PSG, le Barça continue d'être une équipe fragile défensivement. Oui. C'est-à-dire c'est plus du tout l'équipe de l'an dernier. D'ailleurs, on a bien vu l'an dernier, quand le PSG accélère un petit peu, c'était quoi 4 minutes, il y a eu 2 buts de marqués. Mais c'est une équipe qui l'a aujourd'hui, quand tu regardes offensivement. Ouais. Alors, on parlait d'Mbappé. Lamine Yamal n'a pas été très bon la semaine dernière non plus.
Ouais,
c'était
vrai.
Pas le joueur qu'on attendait. C'est Rafinha qui
a Araujo, dont tu parles beaucoup. Beaucoup l'ont découvert vraiment la semaine dernière. Il a fait un match.
Mais lui, c'est l'un des. C'est l'un des 3 meilleurs défenseurs centraux en Espagne actuellement.
Quel accueil pour Ousmane Dembélé? Ce que j'ai vu aujourd'hui, qu'un média catalan, je crois que c'est Sport, c'est ça?
Ouais, Sport.
Dit qu'il ne mérite que du mépris pour son retour en Catalogne.
Oui, mais après, il y a
rapport à son départ précipité, il avait dit 2 mois avant qu'il allait prolonger, en plein stage aux États-Unis, quitte le stage pour venir au PSG.
Ils étaient contents de prendre l'argent aussi, donc. Non. C'était une partie gratuite, non?
Non, il y avait une clause à 40 millions.
À 40 millions, c'est ça. C'était pas. Mais bon, de toute façon, après, je pense pas sincèrement qu'il va être sifflé à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On n'en est pas là. Les mots de Chef Hernandez ont été bien sur lui. Voilà, c'est un bon gars en plus, Ousmane Dembélé. C'est vrai que les gens voient que il était très souvent blessé dans sa première période au Barça et qu'au PSG, il n'est pas blessé. Voilà, on va pas dire qu'il a laissé un souvenir extraordinaire, mais on va pas dire non plus qu'il a laissé un très mauvais souvenir. Puis il a jamais dit du mal du Barça vraiment, donc. Ouais, je pense pas qu'il soit la cible.
Il est parti un peu rapidement.
Oui, voilà, mais combien de joueurs sont partis comme ça? Le problème, c'est qu'il a sûrement été très mal géré au début, quoi. Mais
voilà. Il y a eu de nombreux retards dont l'Espagne se moquait à l'époque.
Oui, voilà, mais c'était le bordel aussi au Barça à l'époque. Bon, c'est toujours un peu le bordel, mais franchement, je vois pas, c'est pas le retour de Figo, hein. Enfin, je veux dire, c'est.
Oui,
voilà, donc, je pense pas que ça soit, il y aura des sifflets, mais ce sera pas une désinformation du soir, ça.
Non, mais qu'un média, affirme et réclame le mépris pour un joueur, ça me paraît fou quand même.
Ça, c'est l'exagération des pays du Sud, hein, même si Barcelone c'est le nord du Sud, mais c'est. Non, je
Média supporter.
Moi je l'aime bien, Dembélé, je m'entendais bien avec lui, et donc C'est vraiment un bon gars. Et dans le vestiaire, il a laissé un bon souvenir en plus. Donc voilà. Enfin, il y a des, je sais pas, un Coutinho qui revient ou un Arthur. Arthur, par exemple, il revient. Je pense qu'il serait pas, très bien accueilli. Dembélé, ça devrait bien se passer.
Allez, c'est l'heure de la minute anglaise. On envoie la musique, Timothée.
Alors pour les fans de musique britannique, hein, mais galloise surtout, Super Furry Animals, l'un des plus grands groupes de rock gallois, avec Something for the Weekend, parce que c'était un week-end où on a beaucoup, beaucoup célébré, on a beaucoup bu, on s'est beaucoup amusé dans le nord du Pays de Galles, à Wrexham, puisqu'on a fêté une nouvelle promotion pour le club de Ryan Reynolds, des stars d'Hollywood, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, bien sûr. L'histoire de Wrexham, on en a déjà parlé souvent dans l'émission. Hein. Ils avaient été promus de la 5e division à la 4e division il y a un an de ça. Et là, ils font donc back-to-back promotion, comme disent les Anglais, d'affiler les deux promotions, de monter, d'affilée. Voilà, donc ils seront dans la 3e division, la Ligue 1, la saison prochaine, après leur victoire ce week-end contre Forest Green, 6-0, dans un championnat un peu fou, la 4e division anglaise, parce que Stockport et Mansfield vont aussi monter directement. Ensuite on aura des play-offs, mais Wrexham, c'est quand même 10 défaites cette saison, 10 matchs nuls aussi, mais malgré tout, dans un championnat qui est très compétitif, où tout le monde peut battre tout le monde finalement, ils vont encore monter. Alors bien sûr qu'il y a eu à un moment toute l'exposition des deux stars qui sont leurs propriétaires, la fameuse série aussi, l'argent injecté dans le club, hein, bien sûr, ça compte beaucoup, surtout à ce niveau-là en Angleterre. Mais voilà, bravo à eux, parce que c'est quand même assez rare, et il faut le noter. Ipswich peut faire d'ailleurs pareil, de League One, Championship, et ensuite en Première League. Mais c'est vrai que c'est très beau de la part de Wrexham de monter encore, et puis qui sait, peut-être après aller encore plus haut.
Possible, peut-être que le plus dur commence également. Je vois que Wimbledon est également en League 2 parmi les autres clubs anglais. Voilà. La montée de Wrexham. Merci Julien pour cette minute musicale.
C'était quoi, t'aimais pas mon choix musical?
Si, j'aime beaucoup. C'est très anglais, hein, très britannique,
oui,
je trouve.
Il y a pas beaucoup qui se ressemblent comme
ça. Je sais pas, Wrexham, un petit jeu de mots, Wrexham, Roxane, Police, ça aurait été pas mal aussi, pourquoi pas.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, ça c'est grand.
J'ai fait Police l'autre jour, j'ai fait.
Ah, t'as fait Police déjà?
Bottle, je crois, l'autre jour.
Ouais. Message in the Bottle.
Peut-être pas là, ouais.
Message in the Bottle. Ça va, Polo? Très silencieux, hein, sur les minutes musicales ce soir. Pas d'avis.
C'est son anniversaire, là. Il est en train
de faire
un échec. Il est en train de faire le gâteau, là.
Je n'ai plus d'avis sur la musique.
D'accord. Allez, on revient dans un instant pour la suite de Génération After avec les Drôles de Dames. Cette question qui te concerne, Polo. Le Bayern peut-il sauver sa saison mercredi soir face à Arsenal? Dans le score, Grenoble-Angers, mon cher Edouard G.
Dans un match très intéressant, très vivant, avec trois grosses occasions pour Grenoble, et ben pour l'instant, il n'y a toujours pas de but. Au bout de 29 minutes, 0-0.
Et l'Atalanta mène 2-0 face à Hellas Vérone. Préparation idéale avant de jouer jeudi soir contre Liverpool. Chelsea, mon cher Julien, combien?
Ouais, il vient de marquer Cole Palmer à l'instant 1-0 contre Everton après 13 minutes de jeu.
Et merci encore à David Moyes de nous avoir renvoyé Gianluca Scamacca en Italie. Merci à lui.
Très bien en ce moment. Très bien Scamacca en ce moment. Lui qui avait failli venir au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, hein, il y a une saison et demie. Reste avec nous. La suite avec les Drôles de Dames sur RMC dans un instant.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Armel, Julien Laurence, Polo Breitner et Johan Crochet, je vous rappelle ce rendez-vous dans moins de 27 minutes désormais, le 32-16. Les auditeurs face aux Drôles de Dames, vous nous appelez vos questions, hein, tout azimut, questions food bien sûr, questions sur les pays respectifs de Fred, Polo, Julien et Johan, questions gastronomiques, n'hésitez pas aussi à le faire si vous partez ce week-end à Rome, si vous partez à Londres, si vous partez à Séville aussi, pourquoi pas à Grenade, n'hésitez pas à faire le 32-16. Voilà.
Pour manger, c'est pas vraiment le sud de l'Espagne.
Ah, moi je mange bien en Andalousie. Hein.
Non.
Attention. Hein.
Mange pas bien en Andalousie, non.
Ah bon?
Faut aller chez Xabi Alonso à Saint-Sébastien.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça oui, là dans le nord, l'Espagne, Madrid, on mange très bien. Dans le nord, tout ce qui est Galice, Asturie, Pays Basque, mais les Espagnes, c'est Séville, mais c'est pas l'endroit où on mange le mieux.
C'est un débat que t'as pas en Italie où tu manges bien.
Partout.
Alors, le Bayern, mon cher Polo, Bayern Arsenal et Julien, bien sûr, mercredi soir. Match aller de partout. Le Bayern vainqueur. C'était mieux en Ligue des Champions, hein, c'est toujours poussif en bout de ces gars, mon cher Polo. Est-ce qu'une qualif, même s'il ne va pas au bout, hein, peut changer la phase de la saison du Bayern demain, enfin mercredi, est-ce que c'est aussi l'enjeu de ce rendez-vous-là?
Moi, j'en suis intimement persuadé. C'est aussi un vieux lion qui est blessé, qui s'est pris une véritable volée en championnat face à Leverkusen, qui a été éliminé par une équipe de 3e division en Coupe d'Allemagne. Faut pas l'oublier. Mmh. Et puis, peut-être plus important, par rapport au standing du Bayern Munich, ou tout du moins de l'histoire récente du Bayern Munich, faut juste rappeler que ça fait 3 ans déjà que le Bayern Munich n'est plus en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, 3 quarts de finale à la suite. Et ça pose pas mal de questions parce que on n'est pas loin quand même du déclassement. Je crois que le Bayern est toujours 2e au classement UEFA, avec quelques points d'avance sur le Real, je crois. Mais c'est quand même un peu, la queue de la comète, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué, cette rencontre. Et une demi-finale, j'ai envie de dire, donnerait quelques motifs de satisfaction, mais surtout pourrait un petit peu sauver la saison en disant regardez, tout n'est pas pourri, et on peut essayer de construire ou essayer de se sauver de cette façon. Ensuite, on sait très bien que ce sera City ou le Real en demi-finale. Ce serait le Real, ce serait extraordinaire parce que ce serait un peu le derby européen qui serait une nouvelle fois en plus en demi-finale.
Mais oui,
en demi-finale.
Tu sais, tu as raison, je fais aparté. On considère que le classico en Espagne, c'est contre le Barça. Le classico en Europe pour le Real, c'est le Bayern.
Bah ouais, mais c'est aussi pour ça, l'une des raisons d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas spécialement un pro la Super League. Parce que moi, je veux pas voir chaque année Real-Bayern. Je voudrais le voir juste comme ça, quand ça arrive avec les boules qui sont tirées. Mais pour en revenir à la rencontre, il est évident que c'est un match très très important pour le Bayern Munich parce que c'est la seule compétition qui reste vraiment. Le Bayern, sauf accident, se qualifiera une nouvelle fois pour la prochaine Ligue des Champions, même si c'est pas fait à cause de Dortmund et de Leipzig notamment, qui sont à 6 points. Mais je pense que le match de demain reflète en fait une volonté absolue de montrer ce qu'on appelle en Allemagne le Zellgesicht, c'est-à-dire de montrer le visage du Bayern en Coupe d'Europe. Et ça, même si Arsenal, au vu du match aller, c'est les petits jeunes qui poussent, qui sont la nouvelle attraction européenne, tout ce que tu veux, etc., et qui jouent mieux que ce Bayern-là, qui est très très loin du Super Bayern d'il y a encore quelques années, une qualification en demi-finale ferait du bien à tout le monde.
Quelle équipe alignée, mon cher Polo, après les blessures de Coman et Gnabry, on fait quoi?
C'est terrible, parce que j'ai du mal, moi, à plaindre souvent les joueurs de football, mais peut-être avez-vous vu les images de Kingsley qui s'est blessé ce week-end une nouvelle fois, et ce qui m'a fait mal, c'est son visage. C'est-à-dire, son visage, c'est quelqu'un qui en a marre, en fait, de se blesser. Il y avait un côté l'usure du gars qui est toujours, toujours blessé. Et ça, c'est pas juste une blessure comme ça où ça fait mal, où il faut sortir, etc. Ça m'a vraiment peiné pour lui parce que quand tu vois qu'il est au sol, tu vois qu'il en a marre, en fait.
Oui, parce que tout seul, il se blesse, en réalité, quoi. C'est son corps qui le lâche, quoi. Voilà, c'est ça.
Exactement. Et c'était vraiment le joueur qui en a, qui en a ras-le-bol d'être blessé, et c'est toujours dommage pour sa carrière. Donc le problème, évidemment, on en parlait avec Julien après le match aller, on ne savait pas si Thomas Müller allait être titulaire ou pas, vu que Gnabry s'est blessé au match aller, vu que Kingsley Coman n'est pas une option, on va changer de schéma de jeu du côté du Bayern Munich, donc on va passer en 4-4-1-1 sûrement avec Thomas Müller derrière Harry Kane. On va décaler Moussiala sur le côté gauche, et la bonne nouvelle, c'est que Leroy Sané, même s'il n'est pas à 100%, sera notamment là. Manuel Neuer dans les buts, évidemment, qui se repose, d'ailleurs il choisit ses matchs en ce moment parce qu'il n'est pas à 100% non plus. On a des peurs de rechute, la défense centrale sera de l'ire d'hier, mais en fait on aura tout le côté gauche qui aura changé puisque Davis était suspendu. Donc est-ce que ce sera Mazraoui qui n'a pas fait un grand match ce week-end, ou est-ce qu'on mettra Guerrero qui est plus habitué à ce poste-là? Et puis il y a le devant, on l'a dit, Moussia normalement à gauche, mais il y a aussi l'option telle du petit jeune. En tout cas, ce ne sera pas facile. On a fait tourner ce week-end, mardi, je sais même plus.
C'est mercredi soir, pardon. Bayern Arsenal.
Voilà.
Très ouvert ce quart de finale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Julien, également. Étrange défaite, il faut le préciser quand même, ce week-end d'Arsenal aussi, qui a. On ne sait pas encore si cette défaite va offrir le titre à City, mais en tout cas, elle fait mauvais genre, surtout à quelques jours d'un quart de finale retour de Ligue des Champions.
Ouais, surtout après le match nul, bien sûr, contre le Bayern quelques jours plus tôt. Ils ont fait une bonne première période, j'ai trouvé. Ils ont raté notamment une très grosse occasion, Trossard, dans cette première période. Et puis après, en seconde période, c'était plus compliqué. J'ai l'impression qu'ils avaient l'air un peu fatigués, les jambes lourdes. Ce qui est aussi qui peut s'expliquer par le match du Bayern quelques jours plus tôt, même s'ils ont eu deux jours de repos de plus que Villa, qui avait joué que jeudi contre Lille. Alors c'est pas la même intensité contre Lille que contre le Bayern, je comprends bien, mais c'est vrai qu'ils ont paru fatigués dans cette seconde période. Alors je sais pas comment ils seront physiquement mercredi. Je sais pas non plus exactement quelle équipe Arteta va aligner. Je pense que ce sera une avec Jorginho qui était remplaçant hier, peut-être une avec Tomiyasu Arriargo, je sais pas, Zinchenko, on verra. Je pense que Havertz retrouvera son poste de numéro plutôt 9 axial, on va dire, plutôt qu'un peu décroché comme hier. Mais oui, effectivement, la défaite d'hier, par rapport à l'impact qu'elle aura pu avoir sur le championnat déjà, et puis aussi psychologiquement par rapport à cette période de la saison, c'était pas ce qu'il fallait pour Arsenal. Je pense que ce sera encore une fois très ouvert, un peu comme le match entre le Barça et le PSG. Ce sera un match super à suivre à mon avis, parce que tout le monde doit attaquer. Pour le Bayern, 0-0 ça suffit pas non plus, donc ils doivent marquer. Pour Arsenal, le 0-0 suffit pas non plus, donc ils doivent aussi marquer. Donc on va avoir un match, encore une fois je pense, assez similaire de ce qu'on a vu au match aller, avec deux équipes qui vont se rendre coup pour coup, qui vont vouloir le contrôle, la possession du ballon, même si le Bayern peut jouer un peu en contre, Arsenal aussi, même si le Bayern à domicile peut aussi jouer en contre. Je pense que ça va vraiment assez fascinant à suivre. Et puis on verra. Pour moi, c'est encore une fois un petit peu en faveur du Bayern parce qu'ils sont à domicile, mais c'est encore très ouvert, du 50-50-45 par exemple.
Ce sera mercredi soir. On sera là pour le commenter bien sûr et le débriefer dans l'after. La quatrième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Timothée.
Avisaste, las tiendas han cerrado para mí.
Faut y aller, Fredo, maintenant.
Ah, mais t'as loupé. Oh,
pardon,
je suis désolé.
Je m'étais endormi.
Ah, on refait. Non, mais c'était le meilleur moment.
Je suis désolé.
Ça y est, il m'a cassé mon cou.
Ouais, mais enfin, ça faisait 45 secondes.
Mais non, mais c'est sublime.
Ah, oui, il allait jamais venir le moment.
Mais oui, bah, fou, quoi. 45 secondes, il chantait, les yeux fermés. Il était plus avec nous, Fredo.
Si Julien vient un peu trop vite pour toi le moment, c'est pas. Tu sais, tu peux consulter. Luis Pastor, j'ai un chanteur qui a passé son enfance à Vallecas. Luis Pastor, c'est ce qu'on appelle un cantautor. C'est un cantautor, c'est auteur, chanteur, interprète. Auteur, compositeur, interprète, qui chante avec Bébé, une chanteuse de Valence. Oui, parce que c'est une expression espagnole qui dit les pluies d'avril, aguas abril, les pluies, les eaux d'avril et les fleurs au mois de mai. Oui, ben on espère que le mauvais temps qu'il y a eu sur le match, le petit derby de madrilène entre le Rayo Vallecano et Retafe, aura peut-être donné des fleurs au mois de mai, parce que là c'était tout simplement une insulte au football.
Ah bon?
Ah mais c'était, je me souviens pas d'avoir vu un match aussi mauvais et aussi peu intense, et surtout avec autant peu de professionnalisme et d'envie des joueurs. À tel point que, vous savez, les commentateurs des journalistes qui font les commentaires sur Internet, de Marca, bon, ils sont quand même là pour faire du clic, ils sont quand même là pour donner envie aux gens de lire. À un moment, à la 78e minute, le commentateur de Marca a même fait un message en disant écoutez, enregistrez ce match si vous avez des enfants, parce que le jour où ils veulent pas dormir, vous leur mettez, et je suis sûr que vos enfants, ils vont faire la sieste. Voilà, c'était une honte, et je me faisais la réflexion en regardant d'un œil ce match, en plus à l'heure de la siesta, donc c'était encore pire, samedi après-midi. Vous savez, c'est en judo, quand il y a un refus de combattre, on peut prendre une pénalité. Et ben là, je pense que ces deux équipes, elles n'ont pas mérité les points qu'elles ont finalement obtenus. Ça les arrangeait bien d'avoir un 0-0.
Oui.
Mais c'était une honte, un tir cadré pour les deux équipes, pour l'ensemble du match, sur 90 minutes.
Deux autres clubs madrilènes, hein, de la Liga, bien sûr.
Exactement. Hein, alors, parce que Vallecas, c'est un quartier dans la ville de Madrid, et Retafe, c'est à une 25 bornes de Madrid. C'est dans la Comunidad de Madrid, la région de Madrid, donc c'est le petit derby madrilène.
Quatre villes, quatre clubs à Madrid, voilà. On ne connaît pas ça, nous, en France. Hein. Polo, t'as combien de clubs à Munich, t'en as deux aujourd'hui, mais en Bundesliga, t'en as qu'un?
Oui, on a un. L'autre est Munich 1860, qui est le club historique de Munich, qui est en troisième division.
Ah ouais, troisième.
À Berlin, t'as.
À Berlin, il y en a plusieurs, mais les clubs professionnels, il y en a deux.
C'est ça.
L'Union, hein. L'Union et.
Ah, c'est courant que ça.
Non, de quoi de... Non, mais il y en a beaucoup de clubs, en fait.
Oui, mais je veux dire dans l'élite, quoi, tu vois, comme en première ligue. Ouais.
Ah oui, non.
Baguette de clubs.
Non, mais c'est intéressant. Un jour, parce que moi, je ne le sais pas. Je voudrais bien savoir pourquoi il y a tant de clubs anglais autour de Londres, en fait, de football, et pourquoi ce n'est pas plus dispersé un peu partout en Angleterre.
Pourquoi aucun ne porte le nom de Londres?
Ça, c'est une très bonne remarque aussi. Les quartiers, d'abord.
C'est les quartiers.
Comme en avant. Exactement.
Mais pourquoi c'est concentré sur Mons?
Parce que c'est grand, parce que de toutes nos villes, c'est la plus grande.
Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Après, t'en as qui sont pas très loin. Après, Watford, Luton, tout ça, c'est pas très loin non plus de Londres. Et puis après, de toute façon, plus tu montes vers le nord, par exemple, ou même vers le sud-ouest, plus t'as des clubs. On parlait tout à l'heure de la 4ème division avec Wrexham. T'as des clubs comme Barrow, je sais même pas où c'est, par exemple, tu vois. Mais t'as des petits clubs comme ça qui sont professionnels. Tu te demandes comment.
Mais quand tu dis c'est des petits clubs, c'est quoi? C'est à l'échelle française ou c'est? Parce que moi, on me dit, des petits clubs en Allemagne, c'est des clubs où il y a 20 000 spectateurs de moyenne, quoi. C'est-à-dire que c'est. Donc il y a une économie autour.
Oui.
Et si tu veux, si en France, on avait 20 000, c'est ce qu'on a en moyenne en L1. Dès qu'on descend en L2, c'est 6 000 supporters de moyenne de mémoire. Le si tu veux, ça c'est des petits clubs. On voit très bien ce que c'est. Il y a pas de base. Il y a pas grand chose. Moi en Angleterre, c'est qu'il y a le soutien populaire qui est là, comme en Allemagne.
En plus, et oui, tu remplis tes stades en plus. Voilà, malgré la proximité des stades,
il y a une véritable économie qui se tourne autour, etc. Exactement. Enfin, on rigolait avec la buvette, mais ça existe la buvette, quoi. Les recettes par rapport à la buvette et choses comme ça. Bon. Et là, voilà, j'ai fini.
On était bien avec cette musique d'ascenseur espagnol là.
Au coin du feu
tous les cinq.
Attends, Luis Pastor, attends.
Excuse-moi.
J'ai mis des musiques d'ascenseur, mais pas Luis Pastor.
Là, c'est variétoche à fond.
Tu rigoles.
Bon, allez, pause, on revient dans un instant, on fait le débat. Avec nous. Dans un instant, on parle de la frayeur Indica. Heureusement, les nouvelles sont rassurantes. C'est la méta à venir entre Grenoble et Angers, Edouard G.
Ouais, il reste une poignée de secondes dans cette première période où il n'y a pas de but, mais il y a eu beaucoup d'occasions, notamment pour les Grenoblois, avec même un sauvetage sur la ligne des Angevins. On a vu Loïc Nestor, on a vu Sylvestre, on a vu Manu Pérez, on a vu un poteau aussi. Mais pour l'instant, à la mi-temps, il y a 0-0, mais l'équipe la plus entreprenante, eh bien, c'est Grenoble. 0-0 à la mi-temps.
Et on revient dans un instant sur RMC. À tout de suite avec les drôles dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, les drôles de dames, comme tous les lundis soirs, avec Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence et Fred Hermel. C'est un peu excité, Julien, sur Chelsea et Everton. Hein. Triplé de Palmer, en 34 minutes.
Incroyable. Son deuxième de la saison. Ouais. Un lob de 45 mètres après une erreur de Pickford, le gardien d'Everton, pour revenir sur les gardiens anglais, Calamity James, etc., etc. Pickford, c'est pas loin quand même non plus, parfois. Et voilà, incroyable. 3-0. Ah, mais quelle saison de Palmer.
C'est 19 buts en première ligue, la joie. C'est ça.
20e maintenant avec le triplé, je crois. 20e avec
20e
le triplé.
D'accord, j'avais 16.
9
d'accord.
Passes décisives. Ouais. Ou peut-être 19, t'as raison. 19 ou 20 en tout cas, plus 20, plus 9 passes décisives, c'est juste incroyable, quoi.
Bon. Bravo à lui. 3-0 après 35 minutes de jeu pour Chelsea. Hein. Vous le savez, 2-0 pour l'Atalanta. J'ai pas dit tout à l'heure face à Hellas Vérone. C'est la mi-temps également. Justement, on parle d'Italie, on parle de Serie A. Match Udinese-Roma interrompu après environ 70 minutes de jeu. Oui. Après le malaise du champion d'Afrique. Hein, ivoirien, franco-ivoirien. Ndika, grosse frayeur. Tu viens avec des nouvelles, mon cher Johan. Aussi, d'abord, revenons sur les circonstances. Et tout de suite que ça va beaucoup mieux pour lui.
Ouais, exactement. Qu'il est sorti de l'hôpital là en fin de journée. Alors, ce qui est étrange, c'est que tout le monde n'a pas compris très rapidement ce qui se passait autour d'Indica, puisque la Roma est en phase de possession, elle développe même une action offensive. Et pendant cela, on voit furtivement, puisque la caméra suit l'action, on voit furtivement Indica se mettre à terre. l'action se poursuit et puis après. De mémoire, le ballon sort des limites et on arrête le jeu et Evan est à terre. Il se tient la poitrine et moi j'ai tout de suite pensé à un coup qu'il avait pris en première mi-temps contre Luca, l'attaquant très gros gabarit de l'Udinese, et en fait dans un duel il lui met un énorme coup de coude au niveau du thorax, et donc je me suis dit c'est lié à ça en fait. Et les médecins entrent et tout de suite il y a vent de panique. La Camara part sur De Rossi sur le banc, où tout le monde s'affole, etc. On demande l'entrée du défibrillateur avec les infirmiers, les médecins du stade, puisque l'Udinese dans son stade, a réussi à faire quelque chose qui est très intéressant. C'est une vraie salle médicale qui est à 2 mètres du terrain. Donc vraiment, c'est juste à côté. C'est au début du tunnel. Vous avez la salle médicale avec tout le matériel nécessaire pour des trucs vraiment de premier secours et des choses assez urgentes. Donc on fait entrer le défibrillateur et là on voit les joueurs et le médecin de la Roma qui demandent au stade de se taire. Et moi j'ai eu l'explication aujourd'hui pour en parler avec un des acteurs du match, c'est que le médecin de la Roma n'entendait pas les battements de cœur d'Evan Ndika parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade. Et c'est impressionnant quand vous regardez les images avec l'ambiance du stade, vous avez des chants et d'un seul coup, en une seconde, tout le monde se tait.
Et en fait, ils font un premier diagnostic, mais très rapide sur le terrain. Et Evan, en fait, il reste 1 minute 30 à terre. Tout de suite, on le met sur la civière, on l'emmène dans la salle médicale du stade, où un ECG lui est fait. Et là, on repère des battements
irréguliers,
cherchez le terme, merci. Et on décide de l'envoyer à l'hôpital en code jaune. Alors, j'explique très rapidement pour les auditeurs.
Code jaune.
En Italie, quand vous allez à l'hôpital, il y a 4 codes possibles. Vous avez code blanc, où c'est pas une urgence. Donc là, vous, généralement, vous attendez un petit moment, un bon moment. Vous avez le code vert, où c'est une urgence relative, où vous pouvez attendre et vous avez un accès aux soins quand il y a la place, en gros. Vous avez le code jaune, qui est le deuxième plus important, qui est une urgence importante, avec un accès rapide aux soins. Et vous avez le code rouge, qui est l'urgence absolue. C'est la même chose qu'en France, urgence absolue. Donc accès immédiat aux soins, on arrête tout et on prend ce patient-là. Donc lui, il part en code jaune à l'hôpital pour faire d'autres examens. Donc ça, c'est le côté handicap. Le match est d'abord interrompu temporairement. L'arbitre a été incroyablement bon, Monsieur Pairetto, très à l'écoute de la Roma notamment, de Daniele De Rossi, des joueurs, des dirigeants. L'Udinese a été impeccable aussi, qui recevait dans son stade, avec notamment Federico Balzaretti, qu'on connaît bien à RMC, qui a tout de suite dit et appuyé par Cioffi, l'entraîneur de l'Udinese, et ben nous on vous suit. Si vous le sentez pas, on arrête le match et il y a aucun problème pour nous. Le public de l'Udinese et qu'on a malmené parce qu'on avait des raisons de le malmener quand il y a eu les cris racistes, les quelques cris racistes envers Mike Maignan de certains individus de cette courbe-là, s'est comporté royalement, c'est-à-dire quand on leur a demandé de se taire, ils se sont tus. Quand le match a été définitivement suspendu parce que De Rossi allait voir Ndika, il a dit nous c'est simple, si on voit que le joueur va bien, on reprendra le match. Si on n'est pas certain qu'il aille bien, on ne reprendra pas le match. Il a été le voir, ils ont constaté que ça n'allait pas, qu'ils l'ont envoyé en code jaune à l'hôpital, ils ont dit nous on peut pas continuer. Il a fait conciliabule avec ses joueurs sur le terrain, etc. Et donc tout le monde a été vraiment, moi ce que je retiens de ça, c'est que du côté de l'Udinese et du côté de la Roma, du côté des supporters, du côté de l'arbitre, on a été impeccable de A à Z. Et ça, quand vous connaissez l'Italie, le campanilismo, les guerres de clochers en gros, et tout ce qui se passe autour des stades, c'est pas toujours simple d'avoir cette unanimité et cette unisson surtout face à un événement.
Je dis également que l'Udinese, ce que tu m'expliquais tout à l'heure au téléphone, laisse le choix à la Roma. Si vous voulez, on rejoue les 21 minutes. Sinon, on les rejoue pas. Il y en a partout. C'est
exactement.
Pas grave.
Et
qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce qu'il a?
Alors, il a passé plusieurs examens à la Roma, à l'hôpital, à Udine. La Roma, donc les joueurs sont allés le voir tout de suite après la fausse fin de match, entre guillemets. Donc ils sont allés le voir. C'est surtout le capitaine, vice-capitaine Pellegrini, Mancini et l'entraîneur qui sont allés le voir. Les autres attendaient dehors. Il a passé la nuit en observation à l'hôpital. Ils ont refait des examens ce matin. Et la Roma a communiqué sur un traumatisme thoracique avec début de pneumothorax. Donc pas lié à des problèmes cardiaques pour le moment. Sur ces premiers examens-là. Evan Ndika va en repasser d'autres, c'est ce que la Roma a expliqué. On va en repasser d'autres à Rome désormais. On va attendre peut-être quelques heures avant d'en repasser d'autres. Mais grosse frayeur en tout cas pour Evan Ndika. Et maintenant il y a un truc de se dire dans quel état va être la Roma aussi avant même de parler de quand on va rejouer les 18 minutes qui manquent de ce match-là. Enfin pas rejouer mais jouer tout simplement. Parce qu'il restait 18 minutes, il faut savoir il y avait un partout. Quand est-ce qu'on va le jouer? Le calendrier c'est pas simple, etc., etc. Mais
après,
etc.
Si c'est pneumothorax, c'est pas un problème cardiaque en fait, c'est une sorte
exactement,
de déchirure.
Exactement. Donc
voilà, c'est sérieux. Mais je veux dire, si c'est que ça, il pourra rejouer au football sans aucun problème.
Oui, et ce qui a été très rassurant du côté d'Evan Ndika, c'est que les joueurs ont tout de suite vu à l'hôpital qu'il allait mieux, qu'il était en forme. D'ailleurs, ils ont publié une photo de lui assis dans son lit.
Et donc c'était un choc qui a provoqué le truc.
C'est pas ça finalement, mais le coup de coude, je pense que prend Evan sur un duel avec Luca, il était vraiment très très violent.
Bon, un joueur, voilà pour Evan Ndika, les nouvelles sont rassurantes. Antoine Griezmann, phénoménal. Alors c'est vrai qu'on en parle à peu près tous les 15 jours ou 3 semaines.
J'ai l'impression de me répéter, mais...
Je voulais signaler pourquoi il y a eu un affolement aussi, parce que j'avais pris tellement de notes que j'en ai oublié. Hier, on les fêtait pas malheureusement, mais c'était les 12 ans de la mort d'un joueur sur le terrain pour un arrêt cardiaque en Italie. C'était Morosini qui joue en série B à Livourne. Et en fait, tout le monde a eu, au moment du malaise d'Indica, qui est resté conscient tout le temps, a eu en mémoire, on en avait parlé depuis le début de la journée, que Morosini c'était il y a 12 ans, etc. Donc a eu un peu ce souvenir très malheureux. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une très grande agitation aussi.
Je le disais, profitons-en pour un 42e hommage de la saison Antoine Griezmann, auteur d'un doublé ce week-end, fantastique également en milieu de semaine contre le Borussia Dortmund, hein, chez qui il se rend, c'est demain soir d'ailleurs, 2-1 pour les Colchoneros au match aller. Voilà, il enchaîne les gros matchs.
Ah mais c'est vraiment le joueur le plus sûr de la Liga, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident parce que ça. Je connais, enfin, il y a peu de joueurs qui sont aussi importants pour leur équipe qu'Antoine Griezmann. Quand il était blessé, l'Atlético n'est pas bien. Il revient face au Borussia et c'est un festival. Et il l'emporte. Alors c'est vrai que l'Atlético menait 2-0 et qu'il y a ce but de Sébastien Haller en fin de rencontre qui change beaucoup de choses quand même. Hein,
oui,
pour une possible remontada de mini remontada de du Borussia. Mais Antoine Griezmann, c'est, enfin, je veux dire, je sais plus quoi dire tellement c'est tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Il marque là, en plus là, il marque deux buts, un sur pénalty après un super but. Voilà, et puis il est heureux sur le terrain. Il est heureux, il est à sa place.
Oui.
Antoine Griezmann est à
sa
place.
Il est dans sa ville, à sa place.
Il est dans sa ville,
avec son bon coach pour lui.
Voilà, ouais. Voilà, et donc ça peut durer très très longtemps parce que c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à lui. Sans être un malade d'alimentation, tout ça.
Oui,
il fait très attention à lui.
Il gère ses courses sur le terrain également, très habile tactiquement, quoi.
Mais comme il est plus intelligent que les autres aussi.
Il gagne de l'avance. Il gagne de l'avance.
C'est-à-dire, dans sa vision du jeu, etc., il sait exactement quand est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et donc, voilà, j'insiste, je me répète, mais Antoine Griezmann mérite qu'on parle de lui toutes les semaines. Il nous oblige, il m'oblige à parler de lui.
C'est vrai qu'il vient de parler aussi un jour, Antoine Griezmann, parce qu'il est assez avare en interview dans son pays, la France.
C'est
dommage.
C'est pas faute d'y travailler, mon ami. Mais c'est vrai qu'Antoine, alors, il parle uniquement, en général, il fait trois questions à la télé espagnole en fin de rencontre.
Il parle dans les pubs.
Comment ?
Ouais, en vrai, dans les pubs, il est là, hein, t'as raison.
Dans les pubs, il sait très bien parler.
Ouais, il parle très bien dans la publicité, Antoine Griezmann. Ouais.
Mais on dit pas de mal d'Antoine, c'est un amour, c'est un mec super.
Non, c'est pas du mal,
mais en fait, tu sais, le truc, c'est
son travail de donner aussi. Nous, on est là pour donner le temps de le micro pour des intermédiaires, des médias.
Antoine, si tu nous écoutes,
et il le fait pas assez, c'est dommage parce qu'il a plein d'histoires à raconter.
Mais il a plein d'histoires. En plus, les gens comprendraient le mec sympa, le mec ouvert, et normal.
On le connaît pas très bien.
Mais non, et c'est.
Après, il a le droit de pas vouloir être connu.
Mais c'est un type.
Parlez foot au moins.
Je veux dire, c'est un type normal, Antoine. C'est-à-dire qu'il est là, tu parles avec un pote, comme nous on parle à tous les cinq, lui, il sera avec nous là, il aurait l'air d'un commentateur comme les autres, quoi.
Très grosse cote de popularité en Italie, Griezmann.
Bah, ouais.
Bon. Très, très grosse
cote. Bah, il connaît le foot en Italie.
Pourquoi?
Pour sa débauche d'énergie, pour sa qualité, son intelligence.
Ah, intéressant.
Le côté décisif. Il fallait entendre les commentateurs de. Le match était sur.
Par rapport au match contre Borussia,
je sais plus. Mediaset, je crois.
Pour Borussia.
Ouais, pour Borussia. Vu que je l'ai regardé sur la télé italienne, c'est incroyable les commentaires et les compliments.
Comment faire autrement?
En plus, c'est le naturel avec lequel il fait. C'est-à-dire que t'as quand même des joueurs qui sont très bons, mais ils montrent qu'ils sont très bons. Lui, en fait, enfin, ils veulent que ça se voit. Lui, en fait, ça sort tout seul, quoi.
Non, puis c'est surtout un des rares joueurs qui allie le côté esthétique avec le côté hargneux. Ça, c'est assez rare parce que souvent t'as soit les mecs, c'est des dinglingués et ils vont tacler dans tous les sens, soit t'as les mecs très esthètes qui veulent pas se salir le short. Lui, il a lié les deux à l'extrême. Ouais. C'est ça,
même si il a été quand même un petit peu plus libéré
de tâches défensives.
Ouais, depuis qu'il est lui-même.
Oui, mais il reste
combatif.
Voilà.
Pour l'autre,
enfin, juste une petite histoire très rapidement sur Griezmann. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, c'est possible, mais je travaille aussi pour Optus, la télévision australienne.
Vous savez,
à l'Euro d'ailleurs. Vous pourrez me voir à l'Euro d'ailleurs
sur Optus. Il veut bien Optus, très bien.
Optus Sport, tout à fait. Et ouais, donc on fait aussi un podcast. Oui, bien sûr, on fait un podcast avec Mark Schwatzel, ancien gardien de but, avec Jay Boothroyd qui a joué en Angleterre en numéro 9, qui a joué pour Cardiff, et on en vient à parler de Antoine Griezmann. Tu l'as vu ce clip?
Oui, je l'ai vu.
Il y avait aussi Phil Kitromilides que tu connais,
vieux pote,
qui travaille pour la Liga TV, qui a travaillé pour Real Madrid TV pendant longtemps.
Bien sûr, qui est anglais d'origine grecque.
C'est ça, tout à fait.
Grec chypriote, exactement.
Et donc on parle et on en vient à parler de Griezmann et là Mark Schwarzer dit je suis pas fan moi de Griezmann, je trouve qu'il travaille pas assez dur pour son équipe. Alors j'étais en syncope et puis là Jay Boothroyd, donc a quand même joué en première ligue, qui a été un bon joueur de première ligue, un joueur honnête de première ligue en tout cas, dit oui, moi je suis d'accord, il travaille pas assez dur. Pour moi c'est un luxe d'avoir un joueur pareil dans ton équipe parce que il fait pas assez d'efforts, il est un peu comme Dimitar Berbatov. Alors là j'ai dit je me lève, maintenant je m'en vais.
J'en vais.
Incroyable.
Casse le contrat.
Non mais incroyable, ils mettent ce clip donc sur les réseaux sociaux et Grisou, notre ami Grisou, qui a dû le voir un moment, répond sur X notamment en disant ils comprennent rien au foot avec une petite emoji de pizza. Mmh. Voilà, ça l'a beaucoup amusé.
Oui.
Mais c'est dommage parce qu'Antoine Griezmann comprenait vraiment rien au foot quoi.
Il réagit bien sur les réseaux tout le temps, mais pas assez dans les médias. Polo, pour finir.
Oui, il faudrait vraiment faire ce débat sur les anciens professionnels dans les médias.
Ah oui.
Parce que franchement, quand j'entends, mais quand moi, j'entends
je suis
ça.
Oui, c'est sûr.
Bah, ah oui, je suis d'accord.
Il y en a quelques rares bons quand même, mon cher Polo. Hein. Faut pas non plus tout mettre à la poubelle.
Et je suis très sérieux, et ils sont chez nous.
Je n'ai pas.
Et les meilleurs, ils sont chez nous.
Vas-y, Polo. Vas-y, Polo. Enchaîne. Bon, pause. Alors, viens dans un instant. Reste avec nous. Le 32-16, les questions. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler, poser vos questions à Polo, Fred, Julien et Johan. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, c'est la fin des drôles de dames sur RMC ce lundi soir, bien sûr. Si on se retrouve la semaine prochaine, mais d'abord, les questions au 32-16. Vous nous appelez nombreux. Je vais tout de suite accueillir Alessio. Vous l'avez compris, question.
Ah, c'est pour moi.
Pour Polo Breakner. Ouais. Bonsoir, Alessio.
Bonsoir à tous.
Salut, Alessio. Bon, prénom italien, ce qui veut dire que. C'est pas un surnom, ton vrai prénom d'origine italienne ?
Oui.
D'accord, tu appelles d'où ?
J'appelle de chez moi, je suis de Versailles.
Oui, c'est bien. C'est bon de savoir, mais je suis pas de la Juve, Alessio.
Je suis de Versailles.
Alors, ta question pour Johan.
Alors voilà, moi j'ai apprécié la semaine dernière que tu puisses parler de la série B et notamment de Como. Et du coup, j'oriente ma question sur un autre club de série B, Parme.
Ouais.
Et j'aimerais avoir ton avis sur Parme. Ça a l'air de bien marcher avec Fabio Pecchia.
Ouais.
Et je voulais savoir si c'est vraiment un renouveau pour ce que je considère quand même un mastodonte de la Serie A. S'ils vont s'inscrire sur la durée ou s'ils vont faire un aller-retour comme l'ont fait par exemple la Cremonese ou Venezia.
Alors, le projet avait très mal démarré avec l'investisseur américain, puisqu'ils descendent et qu'il y a beaucoup de mauvais choix. En fait, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais choix pour expérimenter de plein de sortes, hein, économiques, sportifs, stratégiques, etc. Et là, en Fabio Pecchia, il a trouvé quelqu'un quand même d'une très grande maturité dans la gestion des joueurs, dans la gestion des événements, dans l'affirmation d'une identité. Alors, c'est pas Pecchia, c'est l'ancien adjoint de Rafa Benitez à Madrid, à Newcastle, à Naples. Donc, c'est quelqu'un avec une certaine dimension et expérience. Et il ressemble un peu au Benitez qu'on avait à Naples, c'est-à-dire quelqu'un pas forcément ultra dogmatique, mais très enclin à s'adapter à la configuration des matchs et des adversaires. Ce qui fait que cette équipe de Parme, elle est assez caméléon et qu'elle réussit bien cette saison. Elle devrait monter. Elle a quand même beaucoup de points d'avance. Je crois qu'elle en a 8 de mémoire maintenant.
5 points sur le deuxième et 8 sur le troisième.
C'est sur le troisième. Voilà, exactement. Le troisième joue les playoffs, donc c'est vraiment sur ce club-là qu'il faut regarder. Le recrutement a été un peu plus ciblé. Il y a quelques joueurs qui ont mis du temps aussi à émerger. Les Denisman, les Boni, le jeune français, le Barnabé aussi, qui vient de Manchester City, hein, qui a été formé au Barça, récupéré à Manchester City. Et quand Enzo Maresca vient à Parme, lui qui était entraîneur des U23 à Manchester City, il le prend avec lui et Barnabé est en train de prendre une belle dimension. Donc, Parme, c'est une équipe, c'est marrant parce qu'en France, on a l'impression que c'est une équipe qui compte beaucoup dans le palmarès italien, ou qui compte beaucoup en Italie, mais elle compte beaucoup, cette équipe, parce que c'est dans les années 90 qu'elle s'est construite. Ah,
oui.
Elle s'est construite déjà un palmarès, je vais y arriver, avec deux coupes d'Europe, avec des coupes d'Italie, avec une coupe de l'UEFA. Mais vous prenez avant les années 90 et après 2005, il n'y a rien en fait. Il y a très peu de Serie A, il y a beaucoup de Serie B.
Mais c'est tellement de grands noms pour nous Français,
oui,
qui sont passés là-bas, Sensini, à Turin.
C'est surtout pour une génération. Vous prenez des fans de foot de 20 ans aujourd'hui, Parme, ça ne leur parle pas. Et vous prenez des personnes de 60 ans qui ont grandi avec le calcio, avec le football italien, ça ne leur parle pas forcément. Par contre, tous ceux de notre génération, ça leur parle.
C'est club vintage, effectivement.
Et je pense, pour terminer, Alessio, que contrairement à la Cremonese et ou Venezia, où les bases sont quand même moins fortes, Parme, t'as quand même une base de à la fois de supporters, d'infrastructures, même au niveau des joueurs, qui est beaucoup plus forte maintenant et qui devrait leur permettre, une fois montés en Serie A, de s'inscrire au moins dans la durée.
Voilà la réponse d'Alessio de Johan. J'espère que tu es satisfait. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Le temps de prendre une autre question. Hugo est avec nous. Salut Hugo.
Bonsoir Nico, bonsoir les drôles de dames.
Salut, bon. Salut supporter du LOSC, Hugo, question pour Julien.
Exactement, Hugo. Bonsoir Julien.
Salut.
Évidemment, c'est Frérot. Une question qui va se poser sur le match retour contre Aston Villa. Parce que comme tous les supporters lillois, je suis dans les starting blocks là en ce moment, je suis à fond. Et j'ai trouvé quand même, enfin, j'aimerais avoir ton avis, que le match était étrangement équilibré quand même
au match
aller, et que j'étais quand même assez surpris de voir que limite on le perd contre le cours du jeu sur deux coups de pied arrêtés. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une autre prestation d'Aston Villa au match retour? Parce que je sais pas s'ils nous ont pris de haut un petit peu. J'ai entendu qu'après le match, tu disais « Ah bah oui, en Angleterre, ils étaient quand même assez surpris de la prestation lilloise. » Tout à fait, ouais. Ouais. Et surtout avoir des infos sur les indisponibilités, les blessures ou les suspendus sur le match retour.
Alors avant le match d'hier et la victoire à Arsenal, je t'aurais dit que franchement, après ce que j'ai vu jeudi à Villa Park, plus de possession que Villa, plus de tirs cadrés, plus d'expected goals. C'était vraiment bien, malgré là, c'est une défaite, hein, je comprends, mais je sais que c'est une défaite, mais c'était une bonne défaite. Là, je t'avoue qu'hier, ils ont quand même été impressionnants, j'ai trouvé notamment dans leur gestion du match, des temps faibles, des temps forts, surtout en seconde période. Ils ont vraiment été bons, et même sans Douglas Luiz, c'était vraiment intéressant. Donc, ça va être encore une fois très ouvert, je le répète à chaque fois, mais ça va être très ouvert aussi, parce qu'il faut que vous alliez, il faut que vous attaquiez. Mais sincèrement, ils ont beaucoup souffert contre votre jeu vers l'avant. Ils ont fait des erreurs aussi, et qui ont permis au LOSC d'avoir quelques occasions. Et après, Martinez fait un match de fou. Hein. Il a encore fait un très bel arrêt hier sur Trossard. Donc faudra voir. Mais sincèrement, je pense que vous avez une chance. Après, il y a 50 000 personnes au stade, il y aura une ambiance de fou. Donc moi j'ai hâte d'y être, j'y serai au match, j'ai vraiment hâte d'y être, et je pense que vous avez une carte à jouer. Après, il faudra mieux défendre que jeudi dernier. Tu peux pas prendre des buts comme ça, notamment le premier sur la tête de Watkins, d'une naïveté assez incroyable à ce niveau-là. Ouais, mais voilà, après, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être un coup à faire, c'est sûr.
Voilà Hugo, la réponse de Julien. J'espère qu'elle te va, elle est complète. Tu pourras le croiser au stade peut-être, Julien,
parce qu'il fait tous les stades sur
les semaines européennes.
Avec plaisir en tout cas, et hâte de voir à Lille. Et puis franchement, je sais pas s'il y a eu aussi des réactions concernant le but de Gunnarsson, mais je suis désolé, on peut pas jouer au foot comme ça, avec un hors-jeu au millimètre comme ça. Non, c'est bon, faut arrêter à un moment donné.
Bonne soirée Hugo, bon match jeudi surtout, on sera là sur RMC également. Voilà, terminé pour ce lundi soir. La France veut savoir, Polo, comment Polo Breitner fête son anniversaire. Est-ce qu'il estime que c'est une fête, je sais pas, artificielle, non.
Commerciale,
américaine.
Une fête d'échecs.
Non, mais sortez pas des poncifs systématiquement, les amis. Je m'en fiche, en fait. Je ne le fête pas, je n'ai jamais fêté mon anniversaire.
T'as jamais fêté vraiment. Bon, voilà.
Jamais vraiment, non.
Bon, on te le souhaite encore une fois quand même.
Bon anniversaire, voilà, quand même, mon cher Polo. Dans un instant, l'after, bien sûr, avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Comme tous les soirs jusqu'à minuit, le temps, le score, Grenoble-Angers, Edouard G.
Bientôt l'heure de jeu, messieurs. Pas de but, malgré quand même quelques belles actions, notamment grenoblois, 0-0 donc.
Les drôles de dames seront là cette semaine sur RMC pour la Coupe d'Europe et de retour lundi prochain, 20h, pour les drôles de dames, comme tous les lundis soirs. Bye bye, bonne soirée à tous sur RMC.
Ciao, ciao.
Génération After.